Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 3 décembre 2003 de 18 à 21h, en différé jeudi 4, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir.
Bonsoir.
Bonjour Marc. Bonjour Marc, très parti. Ce soir, petit programme. On va s'arrêter tranquille. J'ai invité Roger Hollande. Bonsoir Roger.
Bonsoir à tous.
Naturellement, à ma gauche, Victoria, à ma droite, Goffman.
Bonsoir Serge de Bekech. Laissez-moi saluer non seulement nos auditeurs innombrables dans le monde entier au-delà, mais également plusieurs dizaines d'auditeurs que j'ai rencontrés face à face, notamment au cours du banquet de Radio Courtoisie, au cours de la manifestation des amis du lundi de Pentecôte dimanche dernier, et qui sont tous, à quelques exceptions près, venus nous apporter, à nous tous qui sommes ici, leurs encouragements, leurs félicitations, leurs sourires. Alors leur visage flotte encore devant mes yeux ce soir et je leur adresse un salut particulier et très amical.
Comment ça, à quelques exceptions près, que c'est...
Ah ben oui, il y a toujours un grincheux ou une grincheuse qui lâche un mot désagréable en passant, mais bon, je le salue, je la salue également.
Bon, c'est des membres du comité d'organisation des nuls.
Oui, probablement.
Bien, alors on va commencer par un petit cadeau. Comme Noël approche et que il faut pas perdre de temps, on va vous offrir un petit cantique, pas un cantique, un petit chant de Noël, un petit chant traditionnel de Noël, dans une version, vous verrez, qui est particulière, qui me paraît propre à instaurer une espèce de réconciliation générale dans l'esprit de Noël.
Ne tripotez pas vos boutons comme lorsque vous avez entendu le rap de Bekech que nous avions diffusé pour en l'honneur de Marine Le Pen. Ça n'est pas une interférence de Radio Beurre ni de France Inter.
صوت ولادك يا بجداد وبكرة الحب جديد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد فين وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولادك يا بجداد وبكرة الحب جديد هنتلاقوا الأصحاب يهدي خلف الباب في شجرة بتدار ويزور ولاد الصحاب الشجرة صارت عيد والعيد صورة فيه والإيد تعلق على الشجرة غنية وأنا إيه ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زين وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولادك يا بجداد وبكرة الحب جديد بتجفي عالدار تلج شرايط وقمار مين اللي
جايب عيد عندي رش مغايب في أبواب الناس ويمشي والخير علينا يزيد
Voilà, c'est un peu long peut-être, on va... Mais c'est bien, c'est joli. Alors, si vous en voulez, on en a d'autres, hein. Si vous en voulez, à partir du troisième appel téléphonique qui dit... Alors il faut simplement deviner le titre, hein. Laïli Faïs, c'est le titre, c'est pas le titre original. Il y a un titre original, si vous le retrouvez dans la musique, vous avez droit à un deuxième morceau. Non, vous n'avez pas l'air enthousiaste.
Je ne vous dis rien alors,
Incroyable.
Et moi je dis merci à l'auditeur, un de ces charmants auditeurs dont je parlais à l'instant, qui nous a rapporté ça de Bethléem.
C'est ravissant.
Donc ce sont des chants de Noël en arabe, et c'est l'occasion de se rappeler que les chrétiens et les juifs étaient au Moyen-Orient des siècles avant les musulmans, et que si on a fabriqué, si on a confectionné une telle cassette, c'est pas seulement pour faire rigoler les auditeurs de Radio Courtoisie, c'est qu'il y a un marché, c'est qu'il y a des millions et des millions de chrétiens qui se préparent à fêter Noël au Moyen-Orient.
Je croyais qu'il allait donner une explication morale à tout ça. Non, il dit c'est parce qu'il y a un marché. C'est vraiment... Ah, il est bien... Bon, enfin, bref.
Un auditeur vous demande, où avez-vous déniché ce disque? Enfin, c'est cette question.
Eh ben voilà, je viens de l'expliquer. Oui, alors, j'étais tellement pressé de faire écouter le disque que j'ai complètement oublié de commencer comme j'avais prévu de le faire, en saluant la mémoire du commandant Guillaume qui a disparu il y a un an exactement. Et bien entendu, on va parler de lui tout à l'heure avec Roger. Et bien entendu, il est présent à notre esprit. Je suis désolé d'avoir commencé d'une façon un peu prime sautière, c'est exactement le mot, parce que je voulais vous faire écouter cette musiquette, et du coup, j'ai oublié ce que je m'étais promis de faire. Je pense qu'on en tiendra par rigueur. Alors. Pour ne pas oublier cette fois-ci les deux grands rendez-vous que je dois vous annoncer, je le fais sans attendre. Premièrement, comme chaque année, Saint-Nicolas sera présent à l'Alsaco, rue Condorcet, je crois que c'est 10 ou 11 rue Condorcet, je me souviens jamais le numéro, tout à fait au début de la rue Condorcet en tout cas, restaurant d'Alsaco, le 6 décembre prochain, et il distribuera des friandises aux enfants et des gourmandises aux parents. Je crois que c'est l'après-midi, mais oui, enfin je suis sûr que c'est l'après-midi. Quelqu'un m'indiquera certainement l'heure, puisqu'elle m'est sortie de l'esprit. Ça c'est à l'Alsaco, rue Condorcet à Paris. Et puis à Riomont, il y a la grande journée de la fête de Noël, le marché de Noël du village, qui est formidable, où ils construisent un véritable petit village en miniature, tout à fait dans l'esprit des villages de Noël, comme on fait à Strasbourg ou maintenant à Paris d'ailleurs, où vous pouvez faire vos provisions de friandises, de petits cadeaux, de guirlandes de Noël, etc. Et ça les aide beaucoup. Donc ça, c'est aussi le 6 décembre au village de Riomont. C'est pas loin de Paris, je le répète à chaque fois, c'est à 2 heures de Paris, à Liévin, par l'autoroute 2 heures. Hein. Même en respectant scrupuleusement les limitations de vitesse et en se méfiant des radars automatiques. Voilà.
Quelle heure, là? C'est l'après-midi?
C'est toute la journée. On peut arriver...
Dans le département du Nord, je crois.
Du Nord, Pas-de-Calais, bien entendu. On connaît bien entendu la vieille blague de Coluche, non? Vous ne connaissez pas? Coluche qui dit on voulait aller à Calais, et puis on a pris la voiture, on a roulé, et d'un seul coup on arrive, il y avait une pancarte, il y avait marqué Pas-de-Calais. On a dit mon vieux, ils auraient pu nous prévenir plus tôt. Mais... voilà, bon. Vous avez entendu parler de l'histoire Léotard, je suppose, mon cher Roger Hollin.
L'histoire Léotard.
Ah oui, qui comparait en justice pour détournement de fonds secrets.
Oui, j'en ai longuement entendu parler. Alors, enfin, ce qu'ils en disent à la radio et aux télé, ils minimisent quand même pas mal l'affaire.
Mais ce qui est formidable, c'est l'argument de défense de Léotard.
Oui, je crois que lui, il dit que tout le monde faisait ça, quoi.
Oui.
Avec tout le monde faisait ça, quand on sait que les fonds secrets n'étaient peut-être pas destinés à ça.
Oui, voilà. Mais d'une part, si l'argument selon lequel tout le monde fait ça est un argument absolutoire, ça va poser de gros problèmes à la justice, parce que, par exemple, le gars qui va assassiner une grand-mère pour lui piquer son portefeuille, il peut dire aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ça avant lui.
Oui,
c'est pas le premier, hein. Il y a quand même des siècles et des siècles qu'on tue les vieilles dames pour leur piquer le portefeuille.
Mais là, on peut dire que chaque jour, on est servi. Chaque jour, on écoute la radio, on regarde la télé, on lit la presse. Chaque jour, on a notre paquet. Là, on peut crever tranquille. On en aura vu pour notre argent.
Oh, mais il en reste encore à voir.
C'est l'affaire de Mohamed Grib, par exemple, qui a littéralement déchiqueté à coups de couteau une commerçante du 18e, je crois, il y a quelques jours.
Bah oui, mais il y en a d'autres qui l'ont fait avant lui. Pas non plus.
Et ben lui-même l'a fait déjà.
Alors en plus, c'est pas la première fois que je le fais. La première fois, on m'a rien dit. Je vois pas pourquoi j'aurais pas recommencé. Mais il y a pour ne pas quitter le domaine intéressant de la politique et des gangsters, il y a d'autres jolies histoires. Vous avez vu que, par exemple, il y a une enquête fiscale qui a été ouverte contre Monsieur Marchiani. Note interne au ministère des Finances datée du 22 octobre. Une note interne du ministère des Finances, datée du 22 octobre, interrompt la vérification lancée en juillet 2002 à l'encontre du député européen. Celui-ci, nous dit Le Monde, aura rencontré au mois de février, à Bercy, un membre du cabinet du ministre délégué du budget, Alain Lambert. Alors, autrement dit, Marchiani fait l'objet d'un contrôle fiscal. Il va voir un collaborateur de Lambert et lui dit « J'aimerais bien que ça s'arrête ». Et pof, il y a une note qui part à l'administration, lui dit « Arrêtez l'enquête fiscale ». C'est intéressant, je vais essayer de faire la même chose si un jour il m'arrive ce genre de truc.
Moi j'ai essayé, je peux vous dire, on m'a coupé le téléphone comme j'ai déjà raconté ici. Alors, comme j'étais en rapport avec une chargée de mission de la présidence de la République, je lui ai écrit au CISEC en disant « S'il vous plaît, madame, le France Télécom est encore une entreprise publique, faites quelque chose pour moi, je ne peux absolument pas payer la rançon énorme que France Télécom me demande ».
Oui, ce qu'il faut préciser quand même, Patrick, parce que c'est pas clair dans ce que vous dites, sauf le respect que je vous dois, c'est que le problème n'était pas de payer la note, vous étiez tout à fait disposé à payer la note, mais France Télécom ayant coupé votre téléphone exigeait pour le rétablir le versement de 18 mois d'abonnement d'avance. Ce qui montait à 400 euros, c'est ça?
Voilà, et ça je ne pouvais pas le payer.
Et donc vous demandiez qu'on vous fasse qu'on ne vous fasse pas payer cette rançon.
Et que croyez-vous qu'il en advient? Je n'ai toujours pas le téléphone 6 mois après. Voilà la différence entre Marchiani et moi.
Si vous appeliez M. Pinault, vous auriez moins de soucis, parce que toujours dans la même série, M. Pinault, qui n'est pas fauché et qui ne s'appelle pas Quasimodo, donc doit se voir réclamer par la justice américaine 185 millions de dollars.
Oui.
Et il dit non, je ne veux pas payer 185 millions de dollars, je veux bien payer 130 millions de dollars. Moyennant quoi, la justice américaine dit, bon, ben, puisque c'est ça, l'accord qu'on avait passé avec la France pour cette affaire d'Executive Live tombe à l'eau et ça n'est plus, je ne sais plus combien, enfin quelques millions de dollars que vous aurez à payer, mais probablement 1 milliard de dollars. Les chiffres sont tellement astronomiques qu'on finit par plus rien y comprendre. Or, il se trouve que M. Pinault est un ami personnel du président de la République. Donc, pour être clair, pour que son ami ne débourse pas 55 millions de dollars de plus, Chirac va faire payer aux Français 1 milliard de dollars d'amende. Or, c'est curieux parce que ça intervient juste après que M. Sarkozy soit monté au filet pour dire qu'il serait président, il serait candidat à l'élection présidentielle. Or, M. Sarkozy a été propulsé dans la politique et est propulsé dans la politique par un moteur fusée qui s'appelle M. Pinault. Je ne sais pas si ça vous inspire une réflexion, ça.
J'ai du mal à suivre.
Cette affaire est quand même assez compliquée. Ce qui est sûr et certain, c'est que les contribuables français se trouvent à avoir remboursé à l'État américain, hein, ou à des gens représentant l'État américain, des sommes monstrueuses, hein, et le peuple français, les contribuables français, n'ont rien à voir dans cette aventure. Ou alors les gens qui ont fait ces marchés avec les États-Unis doivent être mis en prison. Ces gens-là doivent aller en prison. Enfin, ça n'est pas normal. Pourquoi on va éponger toutes les dettes, hein, de ces gens qui sont présentés, qui étaient présentés et qui sont encore présentés aujourd'hui comme des as, hein, de l'économie, des as de la finance. Dans un article dans NH, je citais le nom d'un copain de M. Pinault qui a eu une citation dans le milieu bancaire il y a quelques années pour sa clairvoyance. On prend vraiment les Français pour des crétins.
Oui, c'est au Crédit Lyonnais.
Ça s'appelle la démocratie.
Mais tout ça nous a coûté combien? Tout ça coûte.
Le Crédit Lyonnais, c'est 2000 francs par tête de Français, quel que soit son âge et ses
occupations. Après ça, ils vont s'étonner de voir la montée de l'extrême gauche, de voir que ces oseaux d'extrême gauche, hein, défilent en levant le poing avec le drapeau rouge en 2003, parlent de la grande relève demain, on va abattre les patrons, je trouvais l'autre jour, en cherchant des papiers pour des articles que je devais faire sur la décadence de notre malheureuse patrie, je trouvais une citation de M. Gessmar qui est devenu patron des patrons de l'éducation nationale, inspecteur avec des titres ronflants, parce que tous ces gauchos, ils acceptent les titres ronflants. Bien, Gessmar disait dans cette citation, que je peux envoyer à qui la veut, je vais en faire des photocopies pour la diffuser d'ailleurs, hein, en parlant des jeunes de notre pays qui ne savent ni lire ni écrire en sortant de l'école. Là, j'ai une lettre là. J'ai une lettre que m'a envoyée un jeune gars qui est à l'armée aujourd'hui. Mais je suis atterré. Il y a trois fautes par ligne. Quand ça n'est pas 4 ou 5 fautes par ligne. Alors voilà le travail de ces gens de l'éducation nationale. Et M. Gessmar déclarait, j'ai la date et tout, nous ne sommes pas là, en parlant de l'éducation nationale, pour former des ouvriers ou pour former du personnel pour le haut patronat, nous sommes là pour foutre ce système en l'air. Donc tout ça, ça se tient depuis 20 ans, depuis 30 ans. Ils n'ont qu'un but dans la vie, c'est foutre ce pays en l'air, ruiner notre pays. Et comme là, on est gouverné, nous sommes gouvernés aujourd'hui par un ramassis de gros nuls. Ce sont des gros nuls, mais ça n'amène de l'eau qu'au moulin des anneurs.
Les notables qui sont là pour foutre le pays en l'air, ça me rappelle une anecdote très drôle que j'ai entendue à la radio hier soir. Quelqu'un racontait que l'épouse de Gérard Philippe était un jour en compagnie de Simone Signoret et elle se promenait dans la rue et voilà un mendiant qui les aborde. Machinalement, Simone Signoret met la main à la poche et sort un billet de 5 ou 10 francs et à ce moment-là, l'épouse de Gérard Philippe, bon, qui vivait dans le confort et le luxe que vous imaginez, lui dit « Arrête Simone, arrête !» Tu vas retarder la révolution.
Oui, mais ça, c'était exactement le...
Voilà la lettre que je ne ferai pas de photocopie parce qu'il y a le nom du brave garçon qui m'a envoyé ça. Mais c'est un tissu d'ânerie, c'est un tissu de fautes. Tous les mots, il y a des fautes.
Il y a à l'heure actuelle un élève sur trois qui sort de l'enseignement public qui est illettré, c'est-à-dire pas analphabète, qui est illettré. C'est-à-dire qu'il est incapable de déchiffrer un texte en le comprenant. Et ils sont à peine capables de lire les noms des stations de métro. Donc, effectivement, on peut dire tout ce qu'on veut, mais il y a quand même une formidable responsabilité de l'enseignement public là-dedans. Parce que le responsable du fait qu'un élève, en sortant de la classe de... Je ne sais pas ce qu'on appelle en préparatoire, non ?
CM2.
Oui, CM2. CM2, on apprenait les poésies déjà. Non, mais où on apprend la lecture,
c'est... C'est le CP, c'est le préparatoire.
Oui, donc, un instituteur de CP qui voit un enfant qui sort, qui arrive dans le deuxième trimestre sans savoir lire, il doit s'inquiéter.
Non. Il y a un tiers de la classe qui apprend avant Noël, le deuxième tiers avant Pâques, enfin autrefois quand on apprenait avec des méthodes simples. Et puis à la fin, il en reste quelquefois un ou deux sur le carreau qu'on est obligé de faire redoubler.
J'expliquais hier.
On faisait redoubler à ce moment-là parce que maintenant on ne redouble plus.
J'expliquais hier à de braves jeunes gens qui ont 25-30 ans, que j'aime bien, que la différence, quand même, la dégringolade dans les études dans cette France que nous aimons. Moi, je suis devenu écrivain, j'ai été publié par les plus grandes maisons d'édition. Je ne sais pas si je suis bon écrivain ou autre, mais enfin, on me publie. Si je ne paye pas pour qu'on publie mes bouquins, on me publie. Et je vends. Bon, il y a des bouquins que j'ai vendus à 75 000 exemplaires, 63 000, 48 000, mon roman de guerre, 100 000 exemplaires. Bon, donc les gens n'achètent pas si c'était de la gnognotte ou n'importe quoi. Bon, eh bien, je suis devenu écrivain en sortant de l'armée, après avoir fait la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie, avec le certificat d'études. Avec le certificat d'études.
C'était l'acquis du primaire, il y a
alors,
tout ça maintenant.
Voilà, donc dans le temps, avec le certificat d'études, on en savait autant, sinon plus que les gars. D'abord, on savait écrire proprement. On savait écrire proprement et on avait au moins toutes les notions voulues d'orthographe pour être un bon français et écrire dans notre langue nationale.
Sur la dégradation, non seulement des études, des comportements, mais sur la dégradation, la perte du sens du jugement. Il y a quelques témoignages récents qui sont tout à fait intéressants. Par exemple, là, on est en train de juger à la cour d'assises de l'Essonne, une bande d'Africains qui ont descendu à coups de fusil un autre Africain dans la rue.
De 14 ans, je crois.
De 14 ans, à la suite d'une querelle tribale entre une tribu qui avait vendu du poisson et une tribu qui avait acheté du poisson, lequel poisson étant pourri. C'est-à-dire, nous, même à l'époque d'Astérix, on ne se tirait pas des coups de fusil et pour cause, on se contentait de se battre à coups de poisson pourri. Mais eux, c'est au fusil que ça se règle. C'est ça le progrès, d'ailleurs, ce qui prouve qu'ils accèdent au progrès. Mais voilà ce qu'on lit toujours dans Le Monde. Le meurtrier de Romuald est bagarreur, mais, ouvrez les guillemets, pas méchant, fermez les guillemets, et juste, ouvrez les guillemets, un petit peu, fermez les guillemets, impulsif, il a évoqué comme une péripétie, blablabla, et ça, c'est l'opinion de ceux qui l'ont employé, ce jeune homme. C'est-à-dire qu'il a tué un de ses copains à coups de fusil.
Mais pas méchamment.
Mais il n'est pas méchant, il est juste un peu impulsif, vous voyez. Et hier, j'ai regardé la télévision, hier soir, le journal, je ne sais plus quelle chaîne, a commencé par une vidéo qui montrait une bagarre entre un gigantesque noir américain de 200 kilos et deux flics qui faisaient à tout casser 60 kilos tout habillés, tout mouillés. Et le noir les tabassait à coups de poing jusqu'au moment où les flics sont arrivés à le maîtriser. Ils l'ont littéralement assommé à coups de matraque et le type a fait une crise cardiaque et il est mort. Ce que, si vous voulez mon avis, il n'a pas volé. Bon. Et on a commencé là-dessus. On nous a expliqué que les flics américains étaient racistes une fois de plus, etc. Le noir, lui, il n'est pas raciste. Il était en train de se payer deux blancs à coups de poing qui, à eux deux, faisaient pas la moitié de son poids, mais c'est pas du racisme. Seulement, ce qu'on a oublié de nous dire, c'est que c'est à télévision française que ça se passe et que, dans la même journée, en France, il y a eu un événement dont pas un seul journal n'a parlé, à la télévision en tout cas, c'est l'assassinat de sang-froid par une bande de 7 jeunes dans les rues de Lille d'un type qui passait tout simplement et qui a été tué à coups de poing et à coups de pied et à coups de batte de baseball.
C'est à Lambersart.
À Lambersart, exactement. Et là, le procureur de la République, juste après l'arrestation des tueurs, a fait une déclaration en disant, il n'a pas dit c'est un gramme du racisme. Parce que le gars qui est mort est un Français de souche, et les tueurs ne sont pas. Il n'a pas parlé du tout d'un drame du racisme, il a dit « c'est un drame de l'exaspération ». Autrement dit, on ne peut pas leur en vouloir à ces petits, ils sont exaspérés. Pourquoi ils sont exaspérés? Mais figurez-vous, parce que le gars en question venait de leur reprocher de s'être assis sur le coffre, sur le capot de son automobile. Et ça les a exaspérés.
Ça mérite la mort.
Ça mérite la mort, ni plus ni moins. Mais que ces gens-là se comportent comme des bêtes sauvages, c'est pas nouveau, on le sait, et ça n'étonnera personne. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la sous-évaluation des faits par un homme qui incarne la justice, et la justice répressive, c'est-à-dire le procureur de la République, qui parle d'un drame de l'exaspération. Donc probablement que ces garçons-là vont prendre 2 ans avec sursis et une admonestation vigoureuse, ils vont sortir. Et pendant ce temps-là, la joie qui a pris 20 ans de prison pour avoir fait exploser un pétard dans un bar qui n'a pas fait le moindre blessé, il entame sa 18e année d'incarcération.
Oui, j'espère qu'on va en reparler, cette affaire.
Alors que des dizaines de fois, il a demandé sa mise en liberté, comme c'est justifié, puisqu'il a accompli plus de la moitié de sa peine, et que Chirac refuse catégoriquement sa mise en liberté et le maintien en prison. Ça, c'est un assassinat judiciaire, c'est pas autre chose.
On en reparlera, Serge, parce qu'on s'est beaucoup démené pour Limonov à Moscou. On l'a sorti, je pense qu'on peut le dire. Il faudrait qu'on sorte notre compatriote, la joie. Hein. Ça a trop duré, cette affaire.
C'est une affaire qui est totalement monstrueuse. Et le fait que Chirac, qui par ailleurs utilise sa fonction présidentielle pour se tenir à l'abri de la justice, et ça va expliquer ce que j'allais vous dire tout à l'heure. Ça va expliquer ce que je vous disais tout à l'heure à propos du rôle de Pinault dans cette affaire. Chirac, qui utilise sa fonction présidentielle et l'impunité qu'elle garantit pour se tenir à l'abri de la justice, ferait bien de méditer sur l'indulgence en général, parce qu'il en aura peut-être besoin avant qu'il soit l'heure d'un cochon de lait. Et quand je parlais de l'affaire Pinault, je disais, il est quand même extraordinaire que au moment où Chirac est très 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 salement mouillé, une fois de plus, dans une affaire très grave, qui coûte des milliards aux contribuables français, et qui est l'affaire Executive Life, l'homme qui, en quelque sorte, sert de fusée politique, de fusée financière à la carrière politique de monsieur Sarkozy, fait savoir en quelque sorte à monsieur Chirac qu'il a un tueur à sa disposition. C'est-à-dire, le fait que Sarkozy se prononce en disant, en fait, il a dit très clairement, Chirac est trop vieux et moi maintenant je dois être à sa place. Ça veut dire, si vous ne faites pas le nécessaire, mon cher ami, je vais m'occuper de la suite de vos aventures. Et la suite de vos aventures, ça ne sera pas de prendre votre retraite en Irlande comme avait fait De Gaulle, ça sera de prendre votre retraite à la Santé ou à Fresnes. Voilà ce qui passe comme message secret ou comme message codé dans ces histoires. Il faut savoir qu'en France aujourd'hui, on est dans un pays qui est à la main, qui est entre les mains des mafias politiques et des mafias financières. Et les comptes se règlent de cette façon-là.
Serge, si vous me permettez de revenir de quelques minutes en arrière, nous parlions de l'illettrisme généralisé à la sortie de l'école, et il faut quand même faire résonner un peu d'optimisme. Ici, il y a quand même encore plusieurs millions de jeunes enfants dans le monde qui sont capables non seulement de lire, mais de lire des livres épais de 800 ou 900 pages. Je fais allusion à la sortie, à la mise en vente à Paris cette nuit, à minuit pile, l'heure du crime, de Harry Potter, le 5e volume, je crois. Gallimard prétend en avoir tiré 1 million d'exemplaires. Je pense que, bon, toujours fallacieux, comme tous les éditeurs, c'est un chiffre exagéré.
Ça se vend énormément.
Mais c'est un chiffre exagéré, mais il n'en reste pas moins que ce sont des centaines de milliers d'exemplaires. Et je crois que cette série en est à un total de 18 millions d'exemplaires dans le monde. Ça veut donc dire qu'il y a des millions d'enfants qui sont capables de lire 800 ou 900 pages, multiplié par 5 volumes maintenant. Alors, je terminerai en faisant une comparaison avec le sort de 2 écrivains que nous aimons tous ici, comme nos auditeurs, messieurs Raffarin et Fabius. Parce qu'hier, à la radio, en parlant de Potter, il y avait tout de suite, immédiatement, le gros malin qui disait « Ah oui, mais c'est du marketing !» Comme si il suffisait de prendre l'annuaire, de faire du marketing, et que les gens allaient faire la queue à minuit à Londres ou à Paris pour l'acheter. Bien sûr que non. Et la preuve, c'est que monsieur Raffarin, avec son livre, en est à moins de 4000 exemplaires, et que monsieur Fabius, avec son livre « Ça commence par une balade », en est à moins de 6000 exemplaires, alors que vous avez peut-être remarqué, comme moi, qu'il n'y a pas un média où on n'ait pas dû se le farcir au cours du mois écoulé.
Il y a le Libre Journal, on n'en a pas parlé.
Excepté le Libre Journal, il était sur toutes les télés, sur toutes les radios, dans tous les magazines, avec sa promenade, où il nous explique qu'il est un être humain, qu'il aime les carottes râpées, et qu'il est capable de conduire une moto de 125 cm3. Moi, je voudrais simplement savoir, si c'est un être humain, pourquoi il lui faut deux policiers en permanence 24 heures sur 24 devant sa résidence place du Panthéon à 20 mètres du commissariat principal du 5e. Deux policiers en armes en permanence pour protéger un mangeur de carottes qui aime faire de la moto 125. Eh bien,
c'est peut-être
les Français...
comment ça se passe quand on appelle le commissariat aussi.
Oui, peut-être, oui, puisque c'est lui qui a organisé ça. Eh bien, les Français qui sont des ânes, qui sont des illettrés, qui achètent des livres tout simplement parce qu'on leur fait du marketing, ils ont acheté moins de 6000 exemplaires, et ça encore c'est un chiffre bidonné, si ça se trouve c'est 2000 ou 3000, du bouquin de ce monsieur Fabius qu'ils ont vu sur tous les médias pendant un mois.
C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas acheté de bouquin.
C'est possible. Bon.
Voilà. Alors, moi, je fais tout à peu près ce que je voulais dire sur l'actualité. Il y aurait sans doute beaucoup d'autres choses à dire, mais si, il y a quand même une grande, il y a une bonne nouvelle pour une fois. Il y a un nouvel ambassadeur. Juste au moment où on annonce que la diplomatie française n'a plus d'argent et où les ambassades et les consulats se mettent en grève, il y a un nouvel ambassadeur qui a été nommé. Je sais pas si vous avez vu ça.
Ah non, je l'ai pas vu, non.
Par un décret signé du président de la République et paru au Journal officiel. Il y a un monsieur Hunsinger, ministre plénipotentiaire de première classe, vient d'être nommé ambassadeur itinérant pour la Shoah, les spoliations et le devoir de mémoire. Alors, je le signale, donc il y a un nouvel ambassadeur, je ne sais pas dans quel pays il va aller, mais en tout cas, il est itinérant. Donc
il sera itinérant,
voilà.
Donc...
Voilà, c'était donc ce qui va pas si mal financièrement pour la diplomatie française quand même, si on a les moyens, parce qu'il va certainement pas voyager en bicyclette. Hein. Je pense que tout ça va être des voyages en première classe.
Non, mais enfin, et justement, je profite d'être là pour essayer d'expliquer. Là, il y a un auditeur qui envoie un mot là. Hein. Moi, je ne viens pas à Radio Courtoisie pour attaquer la France, mon pays, mais nous sommes bien obligés de dire ce qui ne va pas dans ce pays. Et si on le dit avec une voix de petit marquis ou de petit prince, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis un militant politique et je me bats. Je me bats depuis 50 ans, même plus de 50 ans, pour le même combat. Je crois à ce que je fais, je crois à ce que je dis, et le jour où je ne croirai plus ce que je fais ou ce que je dis, eh bien, j'arrêterai. Mais je suis toujours un peu navré des reproches ou des remontrances que nous font des gens dont on ne sait pas tout compte fait ce qu'ils font dans la vie pour le combat national, pour le combat de la patrie. Moi, je n'arrête pas. Moi, c'est du 19 heures par jour. Et ce que je fais au Front National ou au Cercle National des Combattants, si je ne le fais pas, personne ne le fait. Et si j'arrête, ça se casse la gueule. Et si j'arrête de pédaler sur mon petit vélo, ça se casse la gueule. Voilà. J'ai fait dernièrement un monument aux morts. On l'a fait, j'ai trouvé l'argent. J'entretiens le château, je trouve l'argent. C'est mon propre pognon qui passe dans ce combat politique. Moi, à la différence de monsieur, de ces gens dont on vient de parler, qui sortent des bouquins, qui passent sur toutes les télés, toutes les radios et qui en vendent très peu, moi je vends bien mes bouquins. Ah, je suis un auteur qui, je le disais tout à l'heure, a vendu des bouquins bien souvent à plus de 50 000 exemplaires, sans passer à une radio, sans passer à une télévision. Eh bien, c'est ça, ma fierté. Mais pas ma fierté pour Roger Hollande, dont je me fous personnellement et totalement, ma fierté pour le combat politique que nous menons. Et si je me casse la tête aujourd'hui, je suis sur deux bouquins en ce moment, c'est parce que je pense qu'il faut que la jeunesse de France, à travers nous, apprenne à ce qui s'est passé, apprenne ce que nous avons fait, apprenne que des Français ne sont pas responsables de la situation de la France aujourd'hui. Parce que tout ce qu'on raconte, hein, sur les banlieues, sur ces pauvres jeunes là qui sont déphasés et tout, bien, là aussi, il y a des responsables mais pas de coupables, ou des coupables mais pas des responsables. Il y a des responsables. Ce sont les différents gouvernements qui gèrent notre pays depuis 30 ans. C'est l'éducation nationale. Parce que si les jeunes des banlieues. On en avait fait des Français, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais pour faire avec des jeunes étrangers qui arrivent des Français, il faut déjà que les jeunes Français qui sont là soient eux-mêmes Français. Moi, quand j'étais jeune, j'habitais au plateau d'Avron, à Rosny-sous-Bois. C'était envahi d'Italiens qui étaient venus comme maçons à Paris. Eh bien, ces Italiens quand un convoi passait avec le drapeau, quand un défilé passait, quand un régiment passait, ce qui était courant à l'époque, ou une manifestation patriotique officielle avec le drapeau, ces Italiens se levaient, enlevaient leur chapeau et saluaient le drapeau national, notre drapeau. Parce que les Français qui étaient là se levaient et enlevaient leur chapeau. Voilà, c'est parce que plus personne n'enlevait le chapeau quand le drapeau français passait, hein, que nous en sommes là dans les banlieues. Alors, on ne peut pas dire que tout ça est arrivé par la faute à pas de chance. C'est arrivé parce que l'éducation nationale n'a plus fait avec les petits Dupont et les petits Durand des Français. C'est arrivé parce que on a raconté à ces jeunes des banlieues que l'armée française était des moins que rien et que l'armée française avait perdu la guerre d'Algérie. Alors je demande à la personne qui a envoyé ce petit mot et qui me demande de prendre des conseils de spécialistes, certainement de gauche, hein. Moi je me fous des spécialistes de gauche. Moi je dis cela. Hein, lorsque j'ai fait un monument aux morts, en trouvant le pognon, en me battant comme un chien, et que je mets sur une plaque sur ce monument aux morts, à la mémoire de tous les soldats de l'armée française, de toute race et de toute religion, qui furent trahis par ceux qui les avaient envoyés au combat, cette plaque, il y en a une en France. Une seule en France, elle est au château de Neuvy-sur-Barangeon, dans le parc. Eh bien, voilà le combat que je mène avec certains amis, avec une petite poignée d'amis. Tout à l'heure, j'ai téléphoné au ministère des Anciens Combattants, au directeur, au rédacteur en chef du journal du ministère des Anciens Combattants. Je lui ai dit, je viens de recevoir le journal du ministère des Anciens Combattants. Une fois de plus, on nous parle de la déportation. Je n'ai rien contre les déportés, je les salue. Une fois de plus, on nous parle des camps de la mort. Une fois de plus, encore et toujours. Je dis, mais il y a 50 ans, tombait Dien Bien Phu, et le Cercle National des Combattants va faire une grande journée à Neuvy, certainement le 9 mai, en mémoire de Dien Bien Phu et en mémoire de ceux qui sont tombés, qui ont combattu. Et je disais à ce type du ministère des Anciens Combattants, vous êtes certainement trop jeune, vous n'avez pas fait la guerre d'Indochine, mais ce fut une grande guerre, ce fut une guerre de soldats. Et c'était surtout une guerre de petits gradés. Et il m'a dit, vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison. Eh bien, voilà ce qui me pousse à me battre. Est-ce qu'on peut dire cela avec une voix de petit marquis? Mais les petits marquis, ils sont PD, ils ne m'intéressent pas. Ils sont au RPR, ils sont à l'UMP, ils sont un peu partout. Si nous sommes attaqués comme nous sommes attaqués, c'est parce que nous disons des choses qui font mal. Et nous parlons, en définitive, de ce que nous connaissons. Et nous connaissons ce dont nous parlons parce que nous l'avons fait. Moi, je n'ai pas perdu la guerre d'Algérie. Je n'ai pas perdu, d'ailleurs, la guerre d'Indochine non plus. Et si Guillaume était là, on s'apercevrait que Guillaume et certains de ses amis et moi-même, on pensait que même après Dien Bien Phu, ça n'était pas perdu. Parce que les gens qui ne se battaient pas, en avaient marre de se battre. Les gens qui se battaient, eux, ne voulaient pas plier le genou. Parce qu'on savait très bien que si on pliait le genou, c'était la France qui était insultée. C'était la France qui était bafouée. Eh bien, en Algérie, nous n'avons pas perdu la guerre. Et les problèmes de notre pays aujourd'hui, c'est qu'on raconte à tout le monde que nous avons perdu la guerre. Et je disais à ce gars du ministère, qui ne m'a pas donné tort, pas du tout, qui acquiesçait à ce que je disais, que même les soldats du contingent communiste n'avaient pas respecté les ordres du parti et avaient fait leur devoir de soldats, avaient fait leur devoir de citoyens français. Ce qui est vrai, il y a eu des salauds qui ont trahi, il y a eu des salauds communistes qui ont posé des bombes, qui ont appris au FLN à poser les bombes. Mais les jeunes du contingent, hein, au moins quand ils étaient arrivés là-bas, même s'ils avaient participé des fois à des arrêts du train, à tirer les signaux d'alarme pour ne pas partir et autres, là-bas, quand ils étaient pris en main par des sous-officiers, des officiers dignes de ce nom, qui étaient avant tout des soldats, ils ont fait leur devoir. Et je me pose la question, voyant l'état mental, l'état moral de la France aujourd'hui, comment des centaines de milliers de garçons qui ont fait l'Algérie peuvent laisser raconter leur histoire, leur vie et leur combat par des gens qui portaient les valises et qui ont trahi la France au combat. C'est pour ça que nous sommes en train de crever. C'est pour ça que la France est en train de mourir à petit feu. Et c'est pour ça que nous en arrivons à désespérer, parce que trop, c'est trop. Et quand je disais tout à l'heure que j'estime que nous sommes gouvernés par des gros nuls, c'est peut-être mal poli. Ah, peut-être que c'est mal poli. Mais qu'est-ce que sont ces gens si ce ne sont des gros nuls? Ils disent le matin une chose, une heure après un ministre dit le contraire, le surlendemain le même ministre dit autre chose, et que le premier ministre ne sait pas où il va. C'est la première fois dans l'histoire du monde qu'un État met dans son budget les amendes à venir, pour les contraventions à venir sont budgétées. C'est n'importe quoi. Alors, je voudrais que ce monsieur qui m'a envoyé ce petit mot vienne déjeuner un jour avec moi et qu'il m'explique comment on peut parler de tout ça sans le faire avec ses tripes. Et pourquoi les autres n'en parlent pas? Pourquoi tous ces mecs des autres partis n'en parlent pas? Parce qu'ils n'ont pas de tripes, qu'ils s'en foutent, et que si la France meurt, ils en ont strictement rien à cirer, comme ils disent.
Je lui propose une date à ce monsieur Roger Hollande, puisque vous parliez de votre jeunesse à Rosny. Je lis dans l'agenda de nos amis de Rivarol que vous serez de retour à Rosny le 12 décembre. Mais ce ne sera pas un déjeuner, ce sera un dîner-conférence, donc à 19h30. Vous direz où va la France, vous dédicacerez vos ouvrages. Donc on peut réserver, ça coûte 22 euros quand même, mais c'est pas très cher. On peut réserver au 01 45 28 40 01. Rosny, c'est dans la Seine-Saint-Denis.
La Seine-Saint-Denis. Mais pour en revenir à cette histoire des Italiens qui habitaient au plateau d'Avron, nous étions à l'école ensemble, à l'école à Rosny, ensemble. Alors, comme moi, je suis d'origine corse, ils m'appelaient Napoléoni, moi, je les traitais de macaroni, on se foutait sur la gueule à la récréation, et tout le monde ne trouvait pas que c'était anormal que des gosses se bagarrent aujourd'hui dès qu'il y a un petit pet de lapin. Ça fait la une de tous les journaux. Mais quand ils arrivaient à 18 ou 20 ans, ces garçons italiens, où ils partaient en Italie fasciste, ils faisaient leur service là-bas et on ne les revoyait plus, ils étaient italiens, où ils restaient en France, ils faisaient leur service en France et on n'en parlait plus. Il n'y avait pas de deuxième, troisième, quatrième, cinquième, quinzième génération. On ne leur proposait pas de rentrer à l'ENA parce qu'ils étaient d'origine italienne. En ne sachant ni lire ni écrire, ils allaient rentrer à l'ENA. Sans ça, ils étaient complexés. Moi, j'ai habité des HLM exactement comme tous ces gens. L'autre soir, il y avait une émission à la télévision, là. Alors, on voit dans un appartement un vieux Chibani qui est écroulé, là. Et puis un brave arabe, un vieux, là. Qui fume son narguilé, là. D'ailleurs, en Algérie, j'ai rarement vu des types fumer le narguilé. Enfin, c'est plutôt du Moyen-Orient. Il fumait son narguilé, lui, Et le gars lui dit, mais alors l'ancien là, ça va? Oh non, ça va pas, ça va pas. Et pourquoi ça va pas? Ben il pousse la porte qui était là, c'était la porte des douches water. Il dit, il y a l'eau qui coule là, les enfants, ils touchent. Alors, il y a le plomb, il y a la chaux, tout ça. Alors, les enfants, ils touchent, et puis ils lèchent les doigts. Alors, ils ont la chiasse, les pauvres enfants. Et le gars lui dit, mais il y a longtemps que ça coule. Oh, ben ça fait des années que ça coule. Mais personne lui dit, mais mon pote, t'as pas un téléphone, tu peux pas faire venir le plombier. Non, non, c'était de notre faute. Le vieux, il trouvait que c'était de notre faute. Ses chiottes étaient dégueulasses, ses enfants attrapaient la diarrhée parce qu'il y avait du plomb, mais c'était à nous d'aller. Mais enfin, ça ressemble à quoi tout ça? C'est pas une mentalité d'esclave. Et pourquoi il y a cette mentalité d'esclave? C'est parce que on nous interdit de parler. Il faut faire très attention, très 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 attention pour parler. Et l'autre soir, je faisais un dîner débat. Mais j'ai heureusement, j'avais mes notes. Et mes notes sont claires. Tel jour, telle heure, sur telle radio. Eh bien, c'était Radio Berry Sud. Mais j'ai dit, mais tout était gaucho. Parce que quand, au château, quand il y a une réception ou il y a autre chose, bon, je fais pour faire les courses, je vais à Vierzon, je vais à Blois, des fois à Bourges, hein, pour faire les achats, hein, et ben, je fais 100, 120 bornes. J'écoute la radio. Et je prends les radios du coin. On capte mal RTL ou on capte mal Europe 1. Et quand à Paris on écoute RTL et Europe 1, on dit mais ils sont gauchos. Mais ce sont des nationalistes par rapport aux gens des radios régionales. Radio Berry Sud, hein, j'entends cette discussion, le gars qui dit oui, c'est proprement honteux. Moi, je peux vous dire une chose. Raffarin, c'est Pétain. Ah bon, je veux bien tout dire, je n'ai pas tellement de sympathie pour M. Raffarin, mais je vois pas en quoi c'est Pétain. Quoi. Hein? Il a laissé mourir 15 000 Français. Et mon beau-père, rescapé de Buchenwald, il y a que des rescapés de Buchenwald, d'ailleurs. Et mon beau-père, rescapé de Buchenwald, a été fusillé cet été par la canicule. Je peux donner l'heure, le jour de la discussion. Alors, radio, Berry Bleu, bon, alors les enfants, bon, alors nous sommes dans notre petite classe, dans notre petit village, hein. Bon, eh bien, aujourd'hui, nous allons recevoir un journaliste. Vous êtes contents, les enfants? Ah oui, monsieur. Eh bien, voilà le journaliste. On dit bonjour à monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur le journaliste. Ah, bonjour, les enfants. Eh bien, voyez-vous, aujourd'hui, on va faire du civisme. On va faire de la politique. Parce que la politique, on ne vous l'a peut-être pas dit, mais c'est du civisme. Alors, je vais poser des questions. Hein, vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Bon, alors, toi, là, je vous appelle comment? Je m'appelle Paul. Bon, alors, les hommes politiques, ils sont honnêtes ou malhonnêtes? Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, je trouve, moi, qu'il y en a qui sont honnêtes et il y en a qui sont malhonnêtes. Hein, ben, c'est bien, c'est bien. Et toi? Moi, c'est Jacques. Alors, et Jacques? Mais moi, je pense comme Claude, il y en a qui sont honnêtes et d'autres qui sont malhonnêtes. Ah, très, très bien. Et alors, est-ce que vous connaissez des hommes politiques malhonnêtes? Oui, monsieur. Qui ça? Toute la classe. Jean-Marie Le Pen. Mais on s'est battu pour que notre pays soit sain. On s'est battu pour ça. Mais j'aimerais connaître un gars qui a saigné sur un champ de bataille qui vienne m'expliquer que c'est pour ça qu'il s'est battu. Hein, pour que des gens soient dans les banlieues pas français au bout de 4 ou 5 générations, on leur doit ceci, on leur doit cela, on leur doit tout. On leur doit tout. Moi, je ne leur dois rien. Hein? Et si ceux qui ont perdu la guerre leur doivent quelque chose, bien ça n'est pas les anciens de l'armée française, parce que l'armée française n'a pas perdu la guerre d'Algérie, c'est monsieur De Gaulle qui a perdu la guerre d'Algérie, et j'explique dans le dernier numéro de National Hebdo pourquoi il a perdu la guerre d'Algérie, et par quelle combine nauséabonde il a perdu la guerre d'Algérie, mais nous, soldats français, nous avons gagné la guerre d'Algérie.
Alors à propos du bourrage de crâne et des phrases toutes fabriquées, toutes faites, des réponses comme les réponses de ces pauvres gosses du Berry, il y a un exemple tout à fait récent, c'est le président du Stade français à qui on pose la question de son opinion sur le fait que les rugbymen viennent de poser complètement nus pour le calendrier 2004. Alors il répond. Oh, ça me gêne pas trop, moi, quand c'est joli, c'est pas choquant. Mmh. Bon. D'ailleurs, je méfie de cette vague de pudibonderie. Le retour à l'ordre moral, ce n'est jamais bon. Ça engendre le totalitarisme. Ouais. Et le totalitarisme, ce sont des millions de morts. Ouais. Alors, on part d'un type qui se montre à poil sur un calendrier. Bon, il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Il y a quelques années, on aurait dit c'est grotesque et puis on serait passé à autre chose. Non, là, on arrive immédiatement à la Shoah. Ouais, d'ailleurs, si vous empêchez quelqu'un de montrer ses fesses et le reste, vous allez en direction de la Shoah.
Jean-Claude Guillebeau, qui est un écrivain chrétien très modéré, qui est le patron des éditions Arléa, a demandé dans un livre récent, est-ce vraiment l'ordre moral qui menace? Est-ce que c'est vraiment l'ordre qui menace en ce moment?
Mais quand on voit, par exemple, c'est les bonnes femmes du planning familial, qui sont des sorcières. Hier, j'ai regardé la télévision sortir du ministère de la Justice, c'était hallucinant. C'était des caricatures. Alors on dit que les gosses, ça les rend fous de lire Harry Potter, mais là, rien que de voir ces têtes-là, on a compris d'où elles viennent. Hein. Et alors elles sortaient et on interroge la présidente du planning familial. On lui dit pourquoi vous êtes venu? Elle dit parce que on est venu lui demander l'abrogation pure et simple, de l'amendement Garot. L'amendement Garot qui considère, parce que l'amendement Garot est dangereux, parce qu'il considère que le fœtus est un être vivant. Voilà, voilà ce qu'on m'entend. Donc c'est dangereux de considérer le fœtus comme un être vivant. Alors, si vous provoquez un accident, par exemple, si vous renversez une femme à bicyclette, si cette femme est enceinte et que dans l'accident, son enfant est tué, l'enfant qu'elle porte meurt, eh bien, avant l'amendement Garot, il n'y avait aucun recours, c'est-à-dire qu'on considérait, bon bah voilà, le gosse est mort, et bah s'il est mort, puis c'est tout, il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Maintenant, il va y avoir possibilité d'agir pour obtenir la punition du responsable de cette mort. Mais avant, on ne pouvait pas poursuivre, c'est-à-dire quelques semaines, on ne pouvait pas poursuivre l'auteur de l'accident, sauf si, dans la chute, cette femme-là s'était retournée un ongle et qu'elle était hôtesse d'accueil dans un grand hôtel parisien, parce qu'à ce moment-là, elle ne pouvait plus travailler pendant 15 jours, et ça devenait très très grave. Donc, on est dans un système où c'est beaucoup plus grave de retourner l'ongle d'une femme que de lui faire perdre l'enfant qu'elle porte. Et vous avez des bonnes femmes, des mégères effroyables, qui viennent avec leur tronche de sorcière dire que c'est normal, ça, voilà, c'est ça qu'est la liberté de la femme, c'est qu'on puisse tuer l'enfant qu'elle porte sans sanction, alors que si on leur retourne un ongle, on va en prison. Enfin, on est vraiment dans un domaine, dans un monde de fous. Et à ce propos, tu parlais tout à l'heure, Roger, des responsables de cette situation. Il y en a qui a oublié, c'est ce que j'appelle, moi, les curetons. C'est-à-dire, pas les prêtres, mais les curetons. Ces espèces de permanents syndicalistes gauchos qui usurpent la fonction, la charge de prêtre. Et alors, c'est ces gens-là qui font le caté. Alors, je vais vous donner un exercice qui a été proposé aux enfants dans un caté parisien pour savoir s'ils sont racistes ou pas. Bien sûr, c'est la question que ça pose. Hein. Alors, voilà. Que pensez-vous de... Suis-je raciste, ça s'appelle. Que pensez-vous des opinions exprimées ci-dessous? Êtes-vous plutôt pour... Êtes-vous plutôt d'accord ou pas d'accord? Premièrement, nous avons le devoir de préserver l'identité culturelle du peuple français en limitant les influences étrangères. Si vous êtes d'accord, vous êtes raciste. Jamais je n'accepterai que ma fille épouse un juif ou un arabe. Là, c'est pas la peine que je vous donne la réponse, vous la connaissez d'avance. L'apport des étrangers représente une chance pour la France. Si vous dites oui, vous n'êtes pas raciste. Mais si vous dites non, vous êtes raciste. Les immigrés pillent notre sécurité sociale et nos allocations familiales. Si vous dites oui, vous êtes raciste. À qualification égale, il est normal qu'on embauche plutôt un blanc qu'un noir. Si vous dites oui, vous êtes raciste. Mais ils disent pas, à qualification égale, il est normal qu'on embauche un noir plutôt qu'un blanc. Parce qu'on s'apercevra que dans les deux cours, on est raciste. Donc ça marche pas. Alors ils posent pas la question. 5% d'immigrés, ça va, 15% bonjour les dégâts. Oui, raciste. Dans l'autobus, jamais je ne m'assieds à côté d'un homme de couleur. Oui, raciste. On ne pourra jamais s'entendre avec les musulmans. Oui, raciste. Je rappelle que c'est une question posée au catéchisme. Les immigrés occupent des emplois que pourraient remplir les chômeurs français. Si vous dites oui, vous êtes raciste. Sur le quai, en attendant le métro, quand il n'y a pas de blanc autour de moi, j'ai peur. Alors déjà, c'est fabuleux parce que ça veut dire que c'est une situation courante, puisqu'on finit par poser la question. Ben, si vous avez peur, c'est que vous êtes raciste. Hein? C'est pas que les autres sont racistes et que vous le savez et que vous avez peur qu'il y ait une émeute raciste anti-blanche qui vous foute sur les rails. Non, c'est parce que vous êtes raciste de penser que les autres peuvent l'être. D'ailleurs, le gars qui vient d'être tué à Lambersart par une bande, là,
il s'est qu'un raciste.
Oui, bien sûr, forcément. Au gouvernement,
mais ils ont mis le racisme
Au gouvernement, c'est comme à la télé, il n'y a que des juifs. Ben, je me demande si c'est pas la question qui est raciste, là. On pourrait, hein. Enfin, quoi qu'on réponde. Ben. Parce que si vous répondez non, mais non, c'est pas comme à la télé. Ben, c'est ça qui est fabuleux. En plus, c'est des crétins, ces gens-là. Parce que, je répète, au gouvernement, c'est comme à la télé, il n'y a que des juifs. Oui, c'est raciste. Non, c'est pas raciste. Mais c'est pas vrai. Ben, non, c'est raciste aussi. Parce que si le gars dit, ah non, au gouvernement, c'est pas comme à la télé, il n'y a pas que des juifs. Alors il n'est pas raciste celui-là.
Il y a des PD aussi.
Nous avons eu la chance de naître dans un pays riche, c'est normal que nous partagions avec ceux qui sont démunis de tout. Alors si vous dites oui, là c'est pas raciste. Mais si vous dites non, c'est pas normal, parce qu'on n'est pas né dans un pays riche, on est né dans un pays qui a été enrichi par le travail de génération et de génération, et c'est quand même pas normal que des types qui n'ont pris que la peine de venir naître chez nous profitent de ce trésor. Enfin, ça c'est du racisme. Partout où les Arabes s'installent, les Français déménagent. Alors, ça c'est un constat, c'est vrai. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bon, si c'est vrai, c'est pas raciste de le constater. dit, bah oui, c'est vrai, quand les Arabes arrivent, les Français foutent le camp.
Oui,
ou
enfin,
non, c'est pas vrai.
Il faut quand même aussi rajouter à tout ça, par exemple, en Seine-Saint-Denis, parce que ça aussi, M. Sarkozy n'a rien inventé. M. Sarkozy, lui, se cache derrière la Shoah, parce que dès que le mot Shoah est prononcé, on ne peut plus parler de rien. Donc, M. Sarkozy, hein, c'est son bâton, la Shoah. Bon, mais dans les quartiers de Sevran, où moi je faisais des scores mirobolants, il y a certains quartiers où il n'y a que des Français d'origine maghrébine. Bon, et lorsque les Français quittent certains quartiers, les gars qui sont intégrés, ils quittent aussi, ils s'en vont. Le gars d'origine marocaine, algérienne, tunisienne, hein, qui a fait de ses enfants des Français, qui travaille, qui se casse la tête à travailler, il ne reste pas dans ses quartiers. Il va, lui aussi, ailleurs. Mais le drame, c'est que nos hommes politiques, si on peut appeler ça des hommes politiques, démarrent en donnant toujours tous les mauvais atouts à la France, et dès le départ, la France a tort. Nous avons tort pour tout, absolument pour tout. Là, j'oubliais de dire sur Radio Berry Sud, là, hein, chaque jour, il y a une émission où on parle de l'esclavage. Et bien sûr qu'en 2003, ça, c'est le grand danger. On parle de l'esclavage. Bon, alors que tout le monde sait très bien, s'il y a des filles, des jeunes africaines ou autres qui sont embauchées par des hauts fonctionnaires, ce ne sont pas des hauts fonctionnaires français les trois quarts du temps. Hein, ce sont des filles qui sont arrivées par la valise diplomatique. Non, mais des choses qui se sont passées il y a 100 ans, il y a 150 ans, on les ressort constamment aujourd'hui. Il ne faut pas régler les problèmes de l'école, il ne faut pas régler les problèmes de circulation. Ce qu'il faut régler, c'est l'esclavage. Mais l'esclavage a été réglé. Il y a des Français qui sont morts, hein, au Tchad, en se battant contre Reza, le négrier, hein, le marchand d'esclaves. Ce sont les Blancs qui ont arrêté le trafic d'esclaves.
C'est Monseigneur Vigerie qui a arrêté le trafic d'esclaves. Hein. Et c'est M. Mendès France qui était le plus gros trafiquant d'esclaves à l'époque où l'esclave... Oui, M. Mendès France, il s'appelait M. Mendès France. Et oui, mais c'est un ancêtre de celui qu'on connaît.
Pas Pierre. Voilà.
Non, c'est pas Pierre, c'est un de ses ancêtres.
Alors,
mais c'est absolument patent. Il faut lire là-dessus les livres.
On peut se demander où tous ces soi-disant hommes politiques vont chercher le fait qu'il faut constamment débattre de tout ça. Il faut mettre le couteau dans la plaie tous les jours. Il faut repercer l'abcès. Si l'abcès se cicatrise, il faut le repercer. C'est pas les problèmes d'aujourd'hui qu'il faut régler. Ce sont les problèmes d'il y a 100 ans, ou 150 ans, ou 80 ans, mais comme ça se passait outre-mer. En oubliant bien souvent de dire que si ce qui se passait outre-mer il y a 100 ans, ça se passait en métropole aussi. Qu'il y avait des gosses de 7-8 ans qui travaillaient dans les charbonnages, qu'il y avait des gosses de 5-6 ans qui étaient sous les métiers à tisser à Lyon et ailleurs. Mais il faut que l'homme blanc soit toujours accusé de tout. Nous sommes des salauds, voilà. Hein, on n'a qu'un droit, c'est dans notre pays, se taire. Eh bien, moi, hein, j'aimerais bien qu'un type vienne me traiter devant un tribunal, qu'il vienne me traiter de raciste. Je ne suis pas raciste. Et tout le monde au Front National le sait. J'ai des amis de toutes couleurs. Mais ces amis, bizarrement, ils ne crachent pas sur mon pays. Ils respectent les lois de mon pays. Bien souvent, c'est devenu également le leur. Mais moi, quand j'étais grand reporter à Paris Match, je naviguais à la cadence de 20-25 jours par mois. C'est pas rien, j'étais un des mieux payés à Paris Match. Bien, qu'est-ce que je faisais quand j'arrivais dans un pays d'Asie ou d'Afrique? Quelle était la première chose que je faisais? Eh bien, je fermais ma gueule. Parce que je savais que si je l'ouvrais et que j'allais au trou, c'est pas l'ambassadeur de France qui viendrait me sortir. L'ambassadeur de France lui dirait, ben c'est bien fait pour lui, un autre. Voilà. Moi, à l'étranger, je respecte les lois du pays. Et même quand je venais comme reporter, j'essayais de voir les choses qu'il y avait à voir. Je rapportais ce que j'avais vu comme un rapporteur. Je rapportais ce que j'avais vu. Mais personne, aucun rédacteur en chef ne m'a jamais dit « Bon ben, Hollandre, tu pars à tel endroit, tu vas me ramener ceci ou cela ». Il y a un rédacteur en chef un jour qui a caviardé un de mes papiers. Hein, j'étais freelance, je n'ai pas été payé, mais je lui ai retourné le bureau sur la gueule et j'ai sauté à pieds joints sur le bureau. Je n'ai pas été payé, mais dans les couloirs, on me regardait comme un type pas mal. Et comme j'étais classé à l'extrême droite, c'était un peu le facho de service, ben, ils disaient ce facho, au contraire, il a une certaine dignité. Eh ben, à 75 ans aujourd'hui, ou bientôt 75 ans, j'essaye je suis prêt à sauter, à retourner tous les bureaux qu'il faut, à sauter à pieds joints dessus, pour crever en gardant la seule fortune que j'ai, c'est ma dignité. Et lorsque je vais à Sevran, beaucoup de gens de couleur viennent me serrer la main, beaucoup de gens d'origine nord-africaine viennent me serrer la main, et beaucoup, je le sais, sont fiers d'être en France et remercient la France, mais du fait qu'ils sont fiers d'être en France et remercient la France, cela ne passeront jamais à la télé ou à la radio, ce sont ceux qui crachent sur la France qui ont priorité sur eux. Voilà le résultat de ce combat que nous avons à mener. Et parfois, j'admire Le Pen, j'admire tous les gens du Front National qui avec nous se battent, parce qu'il faut vraiment la trempe, il faut vraiment être en acier trempé pour continuer le combat. Mais je pense qu'il faut continuer, parce que si nous arrêtons, bien notre malheureux pays va mourir.
Là, il y a une très bonne idée. Là, c'est un auditeur qui propose, visiblement, pour la France antimilitariste de M. Chirac et de ses porteurs de valises planqués qui prônent le métissage, je propose que l'on supprime l'emblème du coq et qu'on le remplace par celui du chapon. Alors, je signale aux jeunes auditeurs qui nous écouteraient, un chapon, c'est un coq auquel il manque l'essentiel, quoi, ce qui fait le coq.
Si tu permets, je voudrais dire, parce que j'ai reçu pas mal de coups de fil aujourd'hui, comme j'ai fait 2-3 dîners débats ces temps-ci, bon, les gens me disent, on vous a vu, on admire ce que vous dites et tout, on est derrière Le Pen, on est derrière vous, bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Bon, mais pour aider le Cercle National des Combattants et son château, la seule chose, c'est de venir au château. Bon, et nous faisons chaque année, pour le Nouvel An, pas pour la Noël, parce que nous prenons une fête familiale pour la Noël, mais nous faisons pour le réveillon de Nouvel An, un grand dîner où tout est compris. Les gens payent, ils n'ont rien d'autre à débourser. Un repas somptueux, des vins délicieux, champagne et tout. Alors ils téléphonent au 01 40 59 07 66. Je répète, Cercle National des Combattants, 01 40 59 07 66. Jeannine Lezeau et les secrétaires se feront un plaisir de leur donner les dates, les heures, les prix et même le menu.
Moi, je voudrais compléter votre propos là, puisque j'ai l'impression que vous êtes sur le départ, Roger, en disant que ceux de nos auditeurs, ils sont sûrement nombreux, qui trouvent qu'on doit enfoncer encore plus messieurs Raffarin et Fabius en tant qu'auteurs, nous qui ne passons pas sur toutes les télés. Je voudrais simplement donner l'adresse électronique de deux librairies où se trouvent vos livres, et si je peux me permettre, les miens également, librairienationale.com et dualpha.com.
Alors, je vais vous demander le message, mais je voudrais simplement signaler quelque chose qui est assez rigolo. C'est que sur France Info, un message des institutions européennes informe les auditeurs sur la législation européenne concernant les immigrés. Ouais. Et donc luttant contre les discriminations. Et je dis ça parce que ça résume parfaitement tout ce que Roger vient de nous dire. Le message, la fin du message, c'est dit la chose suivante. Vous avez des droits, d'autres ont des devoirs. C'est merveilleux. Voilà. Et puis, une idée quand même qui me vient à la lecture d'un message. Patrick nous a parlé de la résidence privée de M. Fabius, qui est gardée par deux flics en permanence à 20 mètres du commissariat. Et un auditeur nous dit, mais j'habite à côté de chez M. Balladur, et il y a devant sa porte d'immeuble un policier de jour et deux policiers la nuit. Et j'ai une idée d'un seul coup. Je me dis, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas au cœur de Paris, dans un endroit agréable, par exemple du côté du boulevard Saint-Jacques, qui est charmant, il y a beaucoup d'arbres, c'est une espèce de cité qui serait la cité des hommes politiques. On mettrait tous les hommes politiques dedans et on les ferait garder en permanence par beaucoup d'hommes armés et on fermerait tout très bien. On pourrait appeler ça la santé, par exemple, vous voyez.
ou au Larzac.
Ah oui, mais là, ça coûterait cher en voyage, tandis que là, ça serait sur place à Paris. Puis ils seraient tranquilles, et nous aussi, voilà. Puis au moins, le jour où on les fout en temps, ils n'ont pas besoin de se déranger.
Enfin, en tout cas, je te remercie de m'avoir accueilli une fois de plus. Je dis bien les choses.
C'est moi qui te remercie de venir, parce que les messages sont des auditeurs enthousiastes s'accumulent.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous. Alors, je répète que nous avons un grand réveillon très, très chouette au château, avec musique, avec tout ce qu'il faut, un vrai réveillon de nouvel an. Nous allons continuer le combat. Nous aurons l'année prochaine, il y aura plusieurs dates. Il y a la fête du CNC, il y a le congrès du CNC, et il y a le 9 mai. Le 9 mai, la journée Indochine, où nous saluerons les défenseurs de Dien Bien Phu. Voilà, le 9 mai. Donc, que les gens ne disent pas, si on avait su, hein, on prévient quand même quelque temps à l'avance, on essaiera de faire une grande fête asiatique, une grande fête vietnamienne, avec des marchands de soupe, avec tout ce qu'il faut, et puis on essaiera de faire venir tout ce qui reste au Mont Saint-Indo, s'ils peuvent encore à leur âge marcher avec toutes les médailles qu'ils portent sur la poitrine, parce que je suis fier d'avoir fait la guerre d'Indochine, je suis fier d'avoir été dans le corps expéditionnaire français d'Indochine, et je salue tous les copains survivants d'Indochine. Voilà.
Merci Roger. Alors, les messages Victoria, si vous
depuis
voulez.
Depuis le début, à propos du disque que vous aviez passé, c'est Jingle Bells, et on en veut encore, nous dit cet auditeur.
En français, c'est Vive
et
le vent.
Et alors, attendez, l'auditrice dit Vive le vent, c'est le titre en français.
Voilà.
J'en redemande, parce qu'on oublie en France que dans les territoires occupés par Israël en Palestine, une forte partie de la population était chrétienne.
Oui.
Monsieur de Bekech a pris la télé trop tard hier soir, car une minute avant 20h, il y a eu une pub sur le préservatif à goût inimitable. Mes petits-enfants étaient là, devant le poste. J'ai trouvé ça très choquant, dit cet auditeur.
Non, mais ils sont fous, je vous dis, ils sont fous, c'est tout. Les fous, ça stresse, ou ça se pique.
Un auditeur, tout de même, dit, je n'ai
non,
pas
mais comment voulez-vous, franchement, quand on en arrive là, à 20h, juste avant le journal, une pub pour des capotes, et en plus, mais vraiment, c'est des dingos, ces mecs. Mais c'est des criminels. C'est des fous criminels. En plus, on sait maintenant, de façon absolument certaine, que le préservatif, c'est un des principaux agents de propagation du virus. Parce que les gens, naturellement, ne prennent aucune précaution. Or, pour des raisons mécaniques, le latex présente des perforations dont le diamètre est supérieur à celle du virus. C'est vraiment...
Serge, puisqu'il n'est que 19h et que nous sommes sur le sujet des capotes, sans entrer dans le détail, je complète votre propos. Vous m'avez envoyé lundi 1er décembre suivre pour le Libre Journal imprimé la journée mondiale contre le sida. Et au cours de mes pérégrinations au centre Pompidou, j'ai pu voir une vidéo... Elle est pas trop, ne vous inquiétez pas, c'est pas trop grave, sinon je n'en parlerai pas, mais elle valait quand même le déplacement parce que cette vidéo, ce petit film prouvait à démontrer que pour emballer une jolie fille, il suffit de lui mettre sous le nez une poignée de capote.
Oui, ça fait
et elle est emballée. D'après moi, c'est plutôt le moyen de ramasser une baffe. Mais vous voyez que ces gens sont des experts sur le sujet des capotes et qu'ils ont le droit d'en parler à la télé à 20h.
Je pense pas que ce soit surtout des experts en ce qui concerne l'emballage des filles. C'est surtout ça le problème. D'autres messages?
Alors, Serge Le Bequet, je n'ai pas l'impression d'être sur Radio Courtoisie quand je vous entends nommer les jeunes ceux qui sont des voyous. Le terme jeune était utilisé par les autres médias.
C'est
pour
vrai,
une radio qui défend la langue française, arrêtez de parler aussi par sigle.
Oui, mais il faut. C'est une chose. D'abord, c'est pas un sigle.
C'est la deuxième chose. Non, mais c'est pour moi parce que j'ai dit CM1.
Ah bon,
il faut pas dire. Il faut dire combien.
Ah oui.
Il faut dire en entier.
Ouais. Non, ce que je voudrais dire à ce propos, c'est que effectivement, on fait souvent ce genre de réflexion. Seulement, vous avez une partie des auditeurs qui disent n'employez pas ce mot-là. Et puis quand je dis le mot qu'il ne faut pas dire, on me dit n'employez pas ce mot-là. Alors, avec cette double interdiction, la conversation devient très très difficile.
On ne peut satisfaire tout le monde et son père.
Comme j'ai reçu une lettre d'une dame qui me reprochait d'avoir dit que le gouvernement était autiste. Alors elle me disait, on voit bien que vous ne savez pas ce que c'est que l'autisme, parce que c'est une maladie terrible, enfin c'est un trouble terrible de la personnalité. Et il faut penser aux parents d'enfants autistes qui souffrent. Je sais très bien que les parents d'enfants autistes souffrent. Je sais aussi que les aveugles souffrent, que les sourds souffrent, encore moins en écoutant la radio que les aveugles, que les paralytiques souffrent. Je sais tout ça. Mais si on peut plus dire à un homme politique, mais vous êtes complètement aveugle, mon vieux, vous voyez pas la réalité. Ou si on peut pas dire à un copain, mais t'es sourd, ça fait 20 fois que je te répète la même chose, sans provoquer des drames familiaux, alors il n'y a plus qu'à tirer l'échelle, quoi. Il n'y a plus qu'à se taire, et encore on va emmerder les muets. Hein ? Faut quand même faire preuve d'un tout petit peu de bon sens. La langue, c'est aussi une arme, c'est un outil. Bon, et c'est vrai que quand on utilise un outil, enfin moi en tout cas, quand j'utilise un marteau, une fois sur deux, je me tape sur les doigts. Ça m'interdit pas pour autant d'utiliser un marteau. Voilà, d'autres messages ? Alors je présente d'avance mes excuses à toutes les personnes qui sont au petit parce que je dis c'est un petit con, au con parce que je dis c'est un con, au grand parce qu'on peut dire aussi c'est un grand con, au maigre, au gros, au chevelu, au chauve, au sourd, aux aveugles.
C'est bien, vous êtes politiquement correct.
Au pied plat, voilà, je leur demande d'avance d'excuser mes écarts de langage.
Oui, mais il y en a d'autres qui ne seront pas contents.
Et les vieux, quand on parle des jeunes, ils ne sont pas contents. Les jeunes ne sont pas contents non plus parce qu'ils disent qu'on n'est pas tous jeunes, bien qu'on soit jeunes. Enfin, vous savez, c'est fatigant par moments. Hein.
Un auditeur vous dit, pour vous consoler, sachez que le mercredi de Radio Courtoisie est jubilatoire. Je suis plein d'admiration, c'est un auditeur, pour l'énergie de Roger Olyndre. Vous voyez, tout le monde est pas mécontent que M. Olyndre parle.
C'est pas l'énergie, c'est Radio Courtoisie.
Alors là, voilà un parent d'élève content. Je suis parent d'élève élu. Je tiens à préciser, en tant que grand auditeur de Radio Courtoisie, que les enfants redoublent, alors je dis en entier, un cours élémentaire première année, s'ils ne savent pas lire correctement. Mais c'est pas. Donc ils ont perdu le cours élémentaire première année, parce que c'est au cours préparatoire qu'on doit apprendre à lire. Sans ça, on gêne le cours, et toute la chaîne baisse à cause de ça.
C'est l'institut qui parle, là.
Là-dessus, j'aurais beaucoup à dire, moi. Ayant trois enfants en cours élémentaire deuxième année et cours élémentaire première année, je trouve que les méthodes actuelles de lecture sont très bonnes. Eh ben, vous voyez qu'il y a quand même des classes où on apprend à lire avec des bonnes vieilles méthodes, sans doute. Parce que les méthodes, majoritaires, disons, ne sont pas très bonnes à mon sens. Et les enfants qui ont des problèmes à l'école sont précisément ceux dont les parents ne parlent pas français chez eux. Pas obligatoirement. Autrefois, mais quand on apprenait encore bien à l'école, il y avait beaucoup de gens qui parlaient patois chez eux. Donc c'était pareil, ils arrivaient à l'école, c'était une langue différente de celle qu'ils parlaient chez eux. Et ils apprenaient à écrire, à lire, et ils connaissaient l'orthographe, la grammaire.
Là, vous nous parlez d'un temps que les moins de 20 ans peuvent pas connaître.
Oui, ça c'est sûr. Bon, continuons. N'y aurait-il pas un changement politique des médias ? Car TF1, hier, a posé la possibilité d'un crime raciste concernant l'affaire de Lamberceur.
Ça j'ai pas entendu.
Oui, j'espère qu'on permet.
Et toujours à propos de l'affaire de Lamberceur, à propos de cette affaire, donc, l'auditeur nous dit « c'est une application radicale de la discrimination positive selon Sarkozy ». Qu'en pensez-vous ?
Oui, c'est exactement ça.
Mon grand-père, d'origine italienne, m'avait dit « J'ai épousé une Française et j'ai donné deux fils à la France ».
Oui. Alors que maintenant, il y a eu récemment un sondage auprès des enfants de l'immigration. Ils vous disent « Moi, je ne suis pas Français. Moi, ma patrie, ce n'est pas la France ». Ils ont les papiers français dans la poche, mais dans une grande majorité. Je crois que c'est plus des deux tiers.
Je suis française d'origine nord-africaine, nous dit cette auditrice, élevée dans l'amour et la culture de la France. Mon père s'est toujours levé devant le drapeau français. Ce que vous dites sur tous ces voyous et non des jeunes est tellement vrai. Nous sommes vraiment excédés.
Oui, mais ça, c'est constant.
J'espère que le procureur de Lambersart va pouvoir tolérer cette exaspération-là.
Oui, celle-là aussi, oui, il ferait bien de pouvoir tolérer cette exaspération-là.
Comment se fait-il que M. Perben ait pu écrire récemment que, en leur temps, les immigrés polonais, portugais, espagnols, italiens ont subi aussi l'exclusion de la part des Français ? Qu'en pensez-vous ? C'est la première fois que j'entends ça, non ?
Je peux en parler parce que je trouve que j'étais à moitié russe,
si
je savais. Et alors, la discrimination que je subissais, succès, c'est qu'on m'appelait Popov. Bon, il y a quand même pas quoi monter au mur, hein. C'est pas, je peux pas dire que j'ai souffert dans ma chair. Et mes copains polacs, mes copains italiens, enfin parce qu'on était au petit Nanterre, à l'école du petit Nanterre, comme racontait Roger, il y avait des gitans, il y avait des arabes, il y avait des polonais, il y avait des russes, pas beaucoup, il y avait des espagnols, des portugais, alors là, par paquet de 12. Et nous on trouvait ça plutôt marrant, je me souviens qu'on a un copain espagnol qui s'appelait Telechea, et ça nous, on se riait beaucoup de son nom, mais le je sais pas pourquoi d'ailleurs, ça avait rien de drôle, mais après le Telechea, ça nous paraissait exotique au possible. Et avec les Arabes, c'était pareil. Il y avait pas d'antagonisme violent. Enfin, il y avait pas d'exclusion. J'ai pas le souvenir de bagarres rangées entre ethnies. C'est une nouvelle invention. Ce
oui,
et
puis les gamins,
le communautarisme.
Ils ont l'habitude de se donner des surnoms, même sans raison. Moi, ouais. J'avais un gamin que les filles appelaient Gaufrette, et ça le mettait dans des fureurs. Alors que c'était un gamin paisible, et quand les filles
venaient, gonfrette. Parce qu'il était craquant.
Ben oui.
Voilà. Bon.
On vous posait aussi quelques questions. Parlez-nous de l'affaire de Port-Fréjus. Monsieur Espagnol a gagné contre Léotard.
Ah bon?
3 milliards de centimes.
Ah, c'est formidable.
Comme ce dernier ne pouvait pas payer, c'est l'État qui a réglé l'ardoise.
C'est le. C'est un truc
ancien, ça, non?
Bah non, mais je ne savais pas qu'est-ce
qu'il faut.
Je croyais qu'il était mort, monsieur Espagnol.
Ouais. Ben oui, mais ça doit être une vieille histoire, non?
Ah, c'est possible, oui. Ça, c'est.
Alors, les intermitteurs.
Il y en a tellement sur Léotard qu'on finit par plus savoir comment.
Les intermitteurs recommencent encore et toujours. Journal de France 2, Assemblée nationale, Star Academy. Que pourrions-nous bien faire? Qu'en pensez-vous?
Hier après-midi sur France Inter, ils chantaient en chœur une parodie grotesque et odieuse du chant des partisans, alors que c'est comme sur Radio Berry Sud, Raffarin égale Pétain, et les intermitteux et les intermitteuses, sans oublier les intermittentes, sont des résistants. Merde alors, excusez-moi Jean Ferré, ça m'a échappé.
Mais ça c'est le chant des partisans, pas le chant des partisans blancs, c'est le truc de Druon, Kessel et Co. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur la plaine? Chanson anticléricale.
Ils ont écrit leur version contre Raffarin Pétain, c'est des héros finalement. Ouais. C'est pas des mytheux ni des mytheuses, c'est des héros.
Des intermittentes. Un auditeur nous écrit de Québec. Alors je sais que c'est vrai parce que c'est un abonné du Libre Journal qui vit au Québec et qui nous écoute par Internet. Et alors il nous dit, à Montréal, il y a un quartier juif qui s'appelle Outremont. L'information vient de Radio-Canada, elle a été annoncée sur Radio-Canada. Et il y avait des familles musulmanes qui commençaient à s'approcher un peu trop de ce quartier. Alors, du coup, les gens du quartier ont trouvé une solution. Ils envoient les rabbins bénir, entre guillemets, toute la nourriture des épiceries, des grandes surfaces, en grand tralala. Et du coup, tout devient considéré comme cachère et les musulmans ne vont pas les acheter. C'est quand même extraordinaire, ça, non? Alors, il dit, je vous laisse imaginer la tête des barbus. C'est pas la peine de nous laisser imaginer.
Tout à l'heure, là, nous avons parlé de Jérusalem, et il y avait un mot d'un auditeur. Dans mon dernier bouquin, Israël-Palestine, assez de mensonges, je donne les chiffres des chrétiens arabes, hein, que l'Amérique, le Canada et la Nouvelle-Zélande font partir. On leur propose des visas pour partir, alors qu'il faut un temps incroyable et il faut du pognon pour partir. C'est-à-dire que ce sont les nations occidentales qui vident du monde chrétien ces régions arabes, quoi. C'est proprement...
Monsieur Chirac a dit, la France a des racines chrétiennes et musulmanes. Monsieur Hollande peut-il répondre aux messages qui ont été envoyés à propos de la grève des diplomates? Et on en a parlé tout à l'heure, je pense.
Oui, on en a parlé. C'est un message tardif pour le moment.
Oui, oui, il est bien sûr et certain que cette grève des diplomates peut paraître un peu bizarre, mais au moment où l'anglais fait du forcing sans nous faire de cadeaux nulle part, hein, tous les moyens qu'avaient les ambassades à l'étranger pour des cours de français, pour défendre la langue française, sont plus ou moins rabotés, quoi. Hein. Il faut bien trouver le pognon. Quand on donne de l'argent à des gens qui n'en ont droit à rien, il faut bien le trouver quelque part. Hein. Donc ils rabotent surtout, et y compris dans les ambassades. Ils vont pas raboter sur les petits fours, ni sur le train de vie hein, des hauts fonctionnaires, mais ils rabotent sur tout ce qui est à côté et qui servait la langue française.
Enfin, quand on sait comment sont tenues les maisons de la culture française dans les pays étrangers, moi je regrette pas du tout.
Oui, non, mais il y en a qui sont en main de gauchos, mais moi j'en ai connu 90%. En voyageant pas mal, hein, qui sont tenus par des types corrects. Et puis ça aussi, ça dépend du gouvernement en place.
Mais mes parents étaient italiens, nous dit cet auditeur. Vous n'allez pas comparer les Italiens avec des Arabes.
Non, mais je n'ai pas comparé.
N'oubliez tout de même pas ce qu'on doit à la Rome antique. Cessez de nous comparer.
C'est pas une comparaison.
Nous,
on n'a rien dit. C'est un auditeur qui a téléphoné en disant les Arabes sont traités en France aujourd'hui comme les Italiens étaient traités hier. Non, c'est pas vrai. Ouais. D'abord, il y a mille raisons qui font que c'est très différent. La première, c'est que d'un côté, on a une communauté spirituelle. La France est catholique, l'Italie aussi, donc les Italiens étaient... Ensuite, il y a une communauté ethnique. Troisièmement, il y a une communauté culturelle. Et puis, quatrièmement, il n'y a pas de passé colonial. Les Italiens n'ont jamais colonisé la France. La France n'a jamais colonisé l'Italie. Donc, il n'y a pas de contentieux. Alors qu'il y a en France, entre la France et l'Algérie, un double contentieux. Les Arabes ne nous pardonnent pas. Les Algériens ne nous pardonnent pas tout le bien qu'on leur a fait. Et nous, on a tendance à ne pas leur pardonner non plus le bien qu'ils nous ont fait. Voilà.
Ce que je disais était à l'honneur des Italiens, puisque je disais qu'il n'y avait pas de problème d'intégration, mais je disais aussi qu'à cette époque-là, les Français de souche étaient des exemples constants de respect de leur patrie.
Et alors, pour terminer sur ce sujet, permettez-moi de raconter ma vieille petite histoire que je raconte souvent, mais comme on a tout le temps de nouveaux auditeurs, c'est pas perdu. C'est un Belge qui arrive à Paris, il sort de la gare du Nord, il prend un taxi, il regarde autour de lui, il dit au taxi, dites-vous, la guerre d'Algérie, vous l'avez bien perdue, oui. Ben, le gars lui dit, oui, bien sûr, on l'a perdue, contrairement à ce que dit Hollande. Mais alors, pourquoi est-ce que vous avez gardé tous les prisonniers? Bien. Ça va, elle est politiquement correcte.
Et puis, attendez, je vous lis encore deux petits messages. Là, on vend à la documentation française un guide édité par un collectif immigrationniste, guide des droits des immigrés.
Et des devoirs des Français.
Voilà. Et puis, alors, une question tout à fait pratique pour vous. Y a-t-il un dîner ce soir à la mer agitée avec Serge de Becquetch?
Non, on ne peut pas abuser des bonnes choses, donc ce soir, il n'y aura pas de dîner à la mer agitée. Mais prochainement, on en fera.
Et quelqu'un aurait aimé que vous parliez du lundi de la Pentecôte, mais là, je crois que...
Patrick peut en parler. Patrick,
j'y ai fait allusion en commençant. Alors, je peux dire, oui, en quelques mots, que les amis du lundi de la Pentecôte, donc, à l'origine, je crois, si j'ai bien suivi le film, quand même, des cathos de base, comme les appelle le canard enchaîné, qui ont réussi à entraîner quelques évêques de France avec eux, ont également réussi à entraîner la Fédération Taurine, la Revue des Comptoirs, les amis du rugby... les amis de je ne sais plus quel sport, et que bref, il y avait encore quelques centaines de manifestants dimanche dernier sur le parvis de la gare Montparnasse, que c'était très bien organisé et que la mer agitée distribuait du très bon vin chaud gratuitement.
C'est beau ça.
Ça c'est l'événement du siècle.
Et une raison supplémentaire à laquelle on n'avait pas pensé jusqu'ici, à propos de ce que dit Patrick, c'est le week-end de la Pentecôte est un long week-end qui permet aux étudiants de réviser avant les examens. Alors, même, on ne va pas leur enlever.
Non, il faut les laisser travailler ces petits. Je voudrais dire une chose que Patrick ne veut pas dire, mais que moi je tiens à dire quand même, c'est que on avait accepté. Vous avez entendu que tous les amis étaient bienvenus, les amis du rugby, les amis de la CFTC, les amis de la Feria de Nîmes. Les amis des amis, des amis d'anciens, etc., comme d'habitude. Et les seuls amis qui n'étaient pas bienvenus, c'était les amis du Libre Journal. Parce que 5 fois, on est venu dire à la personne qui proposait le Libre Journal à l'attention du public de bien vouloir s'écarter pour ne pas politiser cette manifestation fort sympathique au demeurant. Donc c'est bon signe, ça veut dire qu'ils vont dans le sens... du grand public, et c'est très bien. C'est en train de devenir politiquement correct.
J'espère que la fédération de Taurine s'imagine toujours que nous sommes des chrétiens de gauche.
Oui. Voilà.
Et à propos de ce que vous aviez dit tout à l'heure, là, c'était, vous savez, le questionnaire, c'était bien pour les enfants des catéchismes.
Oui.
Et ben voilà l'explication. On fait ça au catéchisme, on fait la même chose dans les classes, et voilà pourquoi Les gamins, ils répondent Le Pen, Le Pen, quand on dit « Citez-nous un voyou ».
Alors, il y a deux questions qui prouvent que ce sont quand même, enfin, qui prouvent que c'est bien des questions qui ont été posées au caté. C'est la question numéro 18. Tous les hommes ont un même père dans les cieux, noirs, arabes ou blancs, nous sommes tous frères en Jésus-Christ, oui ou non. Et puis, on ne peut pas se dire chrétien et rejeter les pauvres que sont les immigrés, oui ou non. Il y a une des deux questions qui est idiote, bien sûr. On ne peut pas se dire chrétien et rejeter les pauvres que sont les immigrés. Ça suppose que tous les immigrés sont des pauvres. Et ça restera à prouver si ces gens-là veulent voir quelques immigrés pas pauvres. Je connais des adresses dans la région parisienne où il y a...
Et sur la Côte d'Azur.
Sur la Côte d'Azur, où il y a quelques émirs dorés sur tranche et couverts de putes qui pourraient certainement leur démontrer... Bah oui, parce que c'est quand même ça pour la raison pour laquelle ils viennent chez nous.
Visiter le Louvre.
Oui, c'est ça. Oui. Et là, il pourrait montrer qu'un immigré n'est pas forcément pauvre. Voilà ce que je voulais dire.
Enfin, c'est la vache.
Est-ce qu'on peut, Franck, tenir la promesse que j'ai faite tout à l'heure en passant un peu de musique, puisqu'on vient d'en parler. On va passer un petit peu de musique et après on donnera la parole à Jean-Pierre Mongendre qui nous expliquera pourquoi il est là.
Vous écoutez Radio Courtoisie.
Comme le temps passe. Mais je pensais que vous alliez parler puisque vous vouliez dire quelque chose.
Non, moi je veux rien dire du tout. Alors, je suis pas discipliné, bête mais discipliné.
Bon, je ne ferai pas de commentaires.
Il a opiné du bonnet.
Non, j'ai pas opiné. J'ai d'abord opiné, ça veut dire émettre une opinion. Donc j'ai pas mis d'opinion.
Votre bonnet, oui.
Patrick, alors à la parole.
Ben, on a fait quelques allusions au Libre Journal.
Ah bon,
dont je rappelle que la directrice n'est autre que Danielle de Bekech, le saviez-vous, Serge? Oui, vous êtes payé pour le savoir.
Oui,
et le numéro en cours, le numéro 308, propose, c'est quand même un peu nouveau, deux articles économiques d'une assez haute tenue. L'un qui s'appelle Pauvre consommateur et qui fait la liste des, de l'inflation qui semble bel et bien orchestrée par le gouvernement, puisque c'est quand même bien lui qui est derrière l'augmentation du téléphone et l'augmentation du tabac.
C'est marrant que vous disiez que c'est un article d'une haute tenue, parce que l'auteur de cet article a le même nom que vous.
Oui, oui, c'est une homonymie.
Il s'appelle Patrick Goffman.
Et puis bon, il est d'une haute tenue parce que je l'ai recopié dans Les Échos, dans Le Monde, dans tout ça. Bon. Mais j'ai essayé de faire la liste de ces augmentations, de cette inflation orchestrée par le gouvernement, ce qui est quand même un peu fort de café, et qui aboutit à ce que les 42 millions de détenteurs du livret A de la Caisse d'épargne touchent des intérêts qui sont annulés par l'inflation. Il y a également donc le trucage de la reprise économique. Donc voilà, on est le Libre Journal. Il n'est pas encore une revue économique, mais nous sommes capables de toucher à tout.
C'est pas économique. 110 euros par an pour l'abonnement, on peut dire que c'est plutôt économique.
De ce point de vue-là, c'est économique. Mais n'anticipons pas. Nous avons également une expertise judiciaire qui fait quand même une révélation et qui prouve une révélation quand même extraordinaire, je cite. 3 viols collectifs sur 4 seraient commis par des voyous afro-maghrébins.
Oui.
Alors bon, j'imagine la surprise de nos auditeurs, mais enfin je les invite à se procurer ce numéro
pour
voir le document et partager notre surprise.
Moi je pensais que c'était des Moldovalaques, voire des Lituano-Latviens, mais non.
Non,
vous voyez, comme quoi ça sert à quelque chose de faire des enquêtes.
Voilà, alors nous quittons la France et ses voyous affreux maghrébins. Pour retrouver notre ami Nicolas Bonnal à Buenos Aires, dans presque chaque numéro, on a vraiment un grand reportage aux antipodes. Là, ça se passe en Argentine et c'est très beau, très cher. Alors voilà, il y a une...
Ça ne nous coûte pas très cher, nous, le voyage.
Non, heureusement. Bon, alors je passe sur les rubriques habituelles, cinéma, une balade au musée Baccarat. Compte rendu de ce défilé de mode moscovite dont nous avons fait la promotion il y a 15 jours. Et j'indique donc, j'en termine en rappelant qu'on peut avoir un spécimen gratuit grâce à Internet sur notre site francecourtoise en un seul mot .info. Un spécimen papier en envoyant un carnet de timbres. Et un abonnement d'un an donc pour ce journal de 24 pages qui paraît 3 fois par mois à l'adresse suivante SDB 4 place France List 75010 Paris.
C'est bien, il faut parler de la couverture. Moi j'aime beaucoup la couverture parce qu'il y a un portrait dans le Libre Journal, c'est quand même assez inattendu, non hein, une, vous le reconnaissez hein, Jean-Pierre Maugendre? Vous connaissez pas, c'est pas votre idole alors?
Franchement.
C'est un portrait de Michael Jackson. Michael Jackson, vous avez entendu parler, comme le pain du même nom.
Il vient de sortir un disque, alors on l'aide comme on peut.
Oui, on l'aide, on fait un peu sa promotion. Je veux dire que ce portrait est assez effrayant, quoi. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Est-ce que vous avez quelque chose à nous raconter, Jean-Pierre, à propos d'une organisation?
Normalement, oui.
Que vous organisez?
Tout à fait. Donc, quelques mots là, donc pour vous présenter la dédicace de livres donc, que nous organisons pour la 12e année consécutive maintenant.
Ça ne nous rajeunit pas.
Comme tu dis. Donc, 12e vente dédicace donc, à l'occasion des fêtes de Noël. Bon, l'idée étant, je crois, dans le cadre de la vocation un petit peu générale de l'association Renaissance catholique, qui est de travailler à la réforme intellectuelle et morale, pour reprendre un terme un petit peu pompeux, mais je crois que c'est important. Donc nous cherchons à l'occasion des fêtes de fin d'année, des fêtes de Noël, de donner l'opportunité, de donner la possibilité aux gens de faire des cadeaux, qui soient d'une part des cadeaux originaux, d'autre part des cadeaux intelligents. Il n'est pas toujours facile de consigner l'originalité et l'intelligence. Également des cadeaux personnalisés qui puissent durer dans le temps, parce que l'immense inconvénient quand même d'une boîte de chocolat ou d'un litre de n'importe quel breuvage, c'est que généralement il ne dure pas dans le temps, alors que le livre que vous offrez, son avantage est de continuer à faire du bien, on l'espère, ou à faire du mal.
Qu'est-ce qui chantait, je vous ai apporté des bonbons parce que les fleurs c'est périssable.
Voilà, c'est exactement ce thème. Donc il n'y aura ni bonbons ni fleurs. Donc l'idée c'est de mettre à disposition donc de l'ordre de 5000 titres donc à disposition des personnes qui souhaitent faire des cadeaux à l'occasion de Noël.
5 000 titres différents ?
5 000 titres différents disponibles, oui. Pour donner un ordre de grandeur, il y a donc l'idée, c'est d'avoir des gens qui dédicacent. Donc il y a 120 auteurs, un peu plus, et donc on met à disposition 5 000 titres différents, 1 000 livres d'occasion, puisque je crois que l'an dernier on avait mis autour de l'année Maurras un stand spécialisé sur les livres d'occasion, ce que l'on ne faisait pas les années précédentes. Bon, et là aussi on a cherché à mettre à disposition des livres d'occasion, alors qu'ils sont des livres par définition un petit peu anciens, mais qui reprennent. On a cherché à faire des fonds de stock, la Docteur pas toujours disponible, bon, Bainville, Daudet, Lavarande. On a fait un effort sur des ouvrages de Lavarande qui sont pas toujours disponibles. Maurras, bien sûr, des ouvrages du cardinal Pi. On a également essayé de mettre à disposition, puisque c'est les fêtes de fin d'année, il y a quand même d'une manière générale plus de cadeaux pour les enfants que pour les adultes. Donc nous aurons 1 000 titres différents pour la jeunesse, donc avec, je dirais, tous les éditeurs amis qui mettront à disposition leurs ouvrages.
C'est très très réconfortant. C'est important ce que tu nous dis là, parce que ça veut dire qu'il y a dans la famille de la famille spirituelle, la famille oui. de pensée à laquelle on appartient, il y a quand même un dynamisme. Alors,
je crois que c'est vrai. J'ai été très surpris hier soir. Là, j'étais à Lille, là où Jean Sévillia venait nous faire une conférence là à l'occasion de son livre, ouais. puisqu'en fait dans la conférence qu'il nous faisait, il traite pas du tout de son livre, bon, que tu connais, tu l'as peut-être invité, je sais pas. Donc il prend un certain nombre de points d'histoire, 18 points d'histoire. Et ce qu'il développe dans le cadre de la conférence qu'il nous a fait hier soir, c'est non pas refaire le livre, mais c'est chercher à aller sur qu'est-ce qui est à l'origine du politiquement correct, de l'historiquement correct. Et je crois que dans sa conclusion, il a livré un élément qui m'a semblé tout à fait encourageant, pour reprendre ce que tu viens d'évoquer. Il dit, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était impossible il y a 40 ans. Parce qu'il y a 40 ans, le marxisme imprégnait tous les esprits. Il dit aujourd'hui, j'ai cité de l'ordre de 150 universitaires. Ouais. C'est-à-dire que dans une multitude de domaines, il y a un certain nombre de gens qui ont redécouvert des choses, et on a aujourd'hui une masse de travaux qui était inconcevable il y a 40 ans. Il nous a donné deux exemples bien précis, c'est l'évolution de Le Goff et l'évolution de Furet. Ouais. Bon, ben il dit Furet avant sa mort sur la Révolution française, il était très proche de nos analyses, quoi. Ouais. Bon, et je crois que c'est un signe encourageant, quoi. Ouais. Notre responsabilité à nous, c'est d'arriver à diffuser ça.
Le Goff, mon paronyme, je peux en parler, puisque nous étions étudiants à Caen ensemble, et autant que j'étais trotskiste, et lui, son cas était plus grave, puisqu'il était était Mao Spontex, comme on disait à l'époque. Oui. Il était donc anarcho-spontanéiste, et son cas était beaucoup plus grave. Nous disions, avant que vous n'arriviez tout à l'heure, M. Maugindre, nous déplorions un peu hypocritement le fait que M. Raffarin vende moins de 6 000 exemplaires de son livre, que M. Fabius, avec toute la promotion qu'il a eue, en vende moins de 4 000. Alors, il faut bien que si les gens refusent d'acheter les livres de ces messieurs, il faut bien qu'ils achètent d'autres livres, et ce sont les nôtres. Et en effet, comme vous avez commencé à l'expliquer, le vent tourne. On le constate aussi lors de manifestations comme celle des Amis du Lundi. Nous tenons la rue une fois par semaine. Vous également, vous teniez la rue il y a quelques semaines avec la manifestation contre l'avortement que vous avez conduite jusqu'à Montmartre.
Oui, tout à fait.
Le vent tourne. On se plaint fréquemment, on se lamente, on a l'impression de ne pas être compris, mais le vent tourne, nous tenons la rue et nous avons des 200 ou 300 auteurs qui proposent 5 000 titres, et la bataille des idées, nous la menons et nous sommes en train de la gagner.
Il y a un autre phénomène qui explique cette abondance de textes. Et j'ai découvert ça en lisant un auteur qui vient d'être republié par L'Âge d'Homme. Et c'est une véritable bénédiction, cette republication, puisque c'est Albert Parraz. L'Âge d'Homme a publié Le Gala des Vaches, Valses et Saucisses et Le Menuet du Haricot en un seul volume. Et Parraz, c'est géant. C'est vraiment un grand, grand écrivain. On a dit que c'était du sous-Céline. C'est ridicule. Ça n'a rien à voir avec Céline. Ils étaient très amis, mais c'est pas du Céline du tout. Et Parraz raconte, il écrit en 47, ça. Et il raconte que quand il veut lire un texte de Balzac, en 47, un roman de Balzac, il est obligé d'aller à la bibliothèque municipale de Nice, puisqu'il est au sanatorium à l'époque, pour lire ça, parce qu'il n'existe pas d'édition bon marché. Et il pose la question, en 47, hein. Il dit, mais qu'est-ce qu'on attend pour faire des éditions bon marché qui mettraient à la disposition des Français les grands textes de la littérature qui sont totalement introuvables, auxquels on n'a pas accès, sauf si on a une grosse fortune, auquel cas on peut acheter, enfin si on a beaucoup d'argent, auquel cas on peut acheter des éditions disponibles. Alors il donne les prix, c'est ahurissant, hein. C'est complètement ahurissant, c'est des prix, c'est 2500 francs hein, d'aujourd'hui, enfin en monnaie constante, l'équivalent de 2500 francs d'aujourd'hui, ou si vous préférez de 3000 euros et des poussières.
Non,
non. Non, on préférait pas. Non, d'accord. Bah, restons dans la 2500 francs.
Je préfère pas, c'est que c'est pas ça.
C'est ça. 300 euros. Bon, et donc il appelle à la constitution d'un fonds d'édition populaire, c'est-à-dire du livre de poche finalement. Et le livre de poche est né quelques années plus tard, peut-être le centenaire du livre de poche, enfin le cinquantenaire du livre de poche, je crois que c'est temps-ci, ça doit être 54, 55. Et aujourd'hui, donc, on peut trouver des livres à bas prix, et on peut trouver beaucoup d'éditions d'occasion, mais on peut trouver aussi des rééditions de Maurras, de Mainville, alors qu'à l'époque, ça n'existait pas. Donc, il y a la décolonisation du marxisme, ça c'est évident, enfin, on a échappé à la colonisation de la pensée marxiste, et puis, finalement, il faut bien dire que je suis pas un fanatique de cette idéologie-là, mais le capitalisme a joué un rôle déterminant dans la diffusion de la culture, parce que tout simplement, les gars ont compris qu'il y avait du fric à gagner en vendant des livres, à bas prix. Et le résultat, c'est que maintenant, on trouve à peu près tout ce qu'on veut à des prix totalement dérisoires.
Alors, je crois un élément de réflexion, là, comme il vient d'être évoqué, là, une information, on évoquait les tirages à quelques milliers d'exemplaires là, de Raffarin et de Fabius. Bon, Jean Sevilla, là, donc, qui sera un des auteurs, non seulement qui viendra dédicacer le 14 décembre, mais en plus, qui sera un des quatre auteurs à qui nous donneront la parole pour présenter un petit peu leur dernier ouvrage. Aujourd'hui, de vendu, c'est 70 000 exemplaires, ouais, c'est historiquement correct. C'est considérable.
Ça c'est gigantesque.
C'est un travail considérable.
Parce que ça veut dire, en plus, ça veut dire que les lecteurs ont besoin de contrepoison.
Alors, il y a une, j'en parlais un peu avec lui sur ce succès, il dit, c'est clair, il y a une attente, quoi. Les gens, plus ou moins confusément, ont le sentiment qu'on leur ment.
Ouais.
Et quand on arrive à argumenter, à étayer, à expliquer, il y a un public.
C'est ce qu'on appelle le syndrome de rente-en-plan.
Je sens qu'on me cache quelque chose.
Brigitte Bardot, 300 000 exemplaires. Fabius, 4 000.
Le Libre Journal, 3 000, voilà.
Il faut pas le dire, Serge. On avait dit qu'on le dirait pas.
Donc, sur cette journée, donc, j'ai parlé un petit peu des titres. Donc, c'est ouvert, donc, de 11h à 18h. Ça se déroule, donc, le dimanche 14 décembre au Palais des Congrès de Versailles, hein, de 11h à 18h. Les 120 auteurs donc sont prévus bon généralement à partir du début d'après-midi et puis donc nous avons quatre interventions bon de livres qui nous apparaissent comme d'une part récents et d'autre part comme particulièrement importants. Donc prendront la parole bon Jean de Vigry sur son Louis XVI, donc le roi bienfaisant. Je crois que bon Jean de Vigry est un historien justement qui a contribué à faire en sorte que derrière des hommes comme Jean Sevilla puissent mettre à disposition d'un plus large public le fruit de leurs travaux. Nous aurons donc Jean Sevilla qui interviendra à 15h45 sur l'historiquement correct. Nous aurons à 16h30 donc Michel de Gégère donc qui interviendra puisqu'il n'a pas encore eu l'occasion de le faire dans le cadre de nos dédicaces sur notre dernière publication, donc la repentance, pourquoi nous ne demandons pas pardon, à laquelle Serge a collaboré avec un article fleuve sur le mondialisme. Bon, je crois que cet ouvrage est un ouvrage de référence sur le sujet. Enfin, je vais pas trahir des secrets d'État. On a fait un premier tirage, on est sur le second, quoi. En 4 mois, le premier tirage a été épuisé. Ce qui est quand même bon signe.
Pourtant, on l'a attendu, celui-là.
Enfin, pourtant, là, c'est d'un délicat. Dernier orateur, je crois, là aussi, donc on cherche un peu à varier les centres d'intérêt. Donc Geneviève de Galard viendra nous parler d'une femme à Dien Bien Phu. Je crois qu'on a là une bonne complémentarité sur à la fois des sujets historiques un peu anciens qui nous renvoient à la mémoire de notre peuple, à la mémoire de notre nation, des sujets directement d'actualité comme la repentance et l'historiquement correct, et puis également un sujet d'histoire, mais qui a également des conséquences très immédiates. Et puis c'était, je crois, un beau témoignage de reconnaissance et de fidélité à nos anciens. Roger Olindre, qui était là tout à l'heure, je pense, ne me démentirait pas sur ce sujet. Alors nous vous attendons très, très nombreux. Je crois ce qu'il faut retenir cette journée, notre objectif, c'est de diffuser de bons livres. C'est que chacun d'entre nous a la possibilité de faire quelque chose à sa place pour la diffusion de la vérité, pour suivant ses appétences, son goût, son tempérament, les grâces qu'il a reçues, pour l'honneur de l'Église, pour la défense de la France. Mais on peut tous faire quelque chose. Voilà, l'important, c'est que tout le monde fasse quelque chose.
Alors, il nous reste quand même un petit peu de temps pour dire ceux justement qui font quelque chose, parce que tu nous as cité les quatre personnalités qui vont prononcer des mini-conférences. Et moi, je me réjouis de savoir que Geneviève de Galard prendra la parole, parce que c'est vraiment un personnage tout à fait exceptionnel. Mais je crois qu'il y a 120 auteurs.
Alors, on est un peu plus de 120, on doit être à 124.
On peut pas tous les citer, mais on peut.
Peut-être un petit peu.
Moi, je veux bien.
Donc, je cite là. Alors, évidemment, je vais avoir des problèmes avec ceux que je ne vais pas citer. Je crois que ça ne fait pas.
Alors, non, le mieux, ça serait de citer ceux que tu ne vas pas citer.
Voilà. Donc, dans les ouvrages récents, nous aurons Bernard Anthony. Donc, j'ai vu la dernière page du livre journal là qui viendra nous dédicacer. Alors, un familier de nos dédicaces, là, je crois que c'est vraiment une œuvre admirable à soutenir, le père Argouache sera là pour
il signera quelques scouts d'Oriomont que vous pourrez emporter à la maison.
Voilà, c'est ça. Bon, je note également Anne Brassier, donc il y a une émission.
Qui?
Anne Brassier, donc il y a
Anne Brassier.
Voilà, donc vous avez peut-être entendu. Émeric Choprade, qui est venu à notre université cet été, qui nous a fait vraiment une conférence de géopolitique.
Anne Brassier, c'est la
haut niveau.
Pardon, c'est la jeune femme qui a failli avoir le prix d'Odès cette année.
Anne Brassier, en effet, est remontée de la 7e. J'étais au banquet, Serge.
Ah, voilà.
Et elle est remontée de la 7e à la 3e place dans le cours du banquet. Ouais. Anne Brassier.
Ouais. Ah, c'est Anne Brassier.
On a eu son accord très récemment. Là, je crois que c'est, à mon sens, un des grands romanciers catholiques de ce siècle. Eugenio Corti sera là.
Ah, formidable.
Donc, vous connaissez tous.
C'est un personnage mythique.
Vous devriez tous connaître et en tout cas avoir lu le Cheval Rouge. Il vient de paraître. Là, je suis en train de le finir.
De reparaître.
Alors, non, il vient de publier, beaucoup ne reviennent, la plupart ne reviendront pas. C'est-à-dire que le Cheval Rouge, il s'était inspiré de son expérience de soldat italien sur le front.
Là,
il raconte effectivement ce qu'il a vécu. C'est hallucinant, quoi. C'est fait dans un esprit, je dois dire, que l'on ne trouve pas toujours dans ce type de récit. C'est un des grands auteurs. Alors, comme son nom l'indique, alors il est italien. Tout à l'heure, on a parlé qu'il y avait beaucoup d'Italiens en France. Lui est un Italien qui vit en Italie. Donc, si vous souhaitez avoir le contact avec lui, il doit venir en France une fois tous les 2 ans ou 3 ans. Donc, je crois que c'est vraiment une occasion.
Il a parlé sur cette antenne déjà, en compagnie de Dimitrievitch, puisque c'est un auteur HDOM.
Oui, tout à fait. Il est édité par l'HDOM. Hein.
Beaucoup de gens affirment que c'est le romancier catholique vivant.
C'est extraordinaire.
C'est vraiment le seul Génitsyn occidental.
Voilà, en quelque sorte.
C'est vraiment. Donc je note également le docteur Dor, qui est un habitué de nos. De nos réunions. Nous aurons également, je vois, la Bruno Gollnisch, donc qui viendra signer son livre La réaction, c'est la vie. Roger Olindre, qui était présent parmi nous tout à l'heure. Thibault de la Tocnay, donc que vous avez peut-être invité là, qui viendra dédicacer
Il viendra la semaine prochaine.
Voilà, Thibault. Donc c'est un vieux camarade de 20 ans maintenant, le général Le Groignec, là, qui mène sur la période de la Seconde Guerre mondiale une œuvre de, je crois, de salubrité publique, toujours en parlant des faits. Voilà, qui vais-je oublier? Philippe Maxence également, donc de l'Homme Nouveau. Alors Serge de Becket, je suis sûr, je sais plus où il est. Vladimir Volkov, Wagner, enfin bon voilà, il y a une.
Je n'ai pas de livre à
signer.
Et moi, vous ne m'avez pas invité, monsieur Mojand, mais je viendrai quand même.
Voilà.
Je suis heureux de vous en informer.
Goffman a été invité.
C'est un peu. Voilà. Monsieur Raffard de Brienne, donc évidemment.
Ah, bah oui, quand même, avec son bouquin Vers la Jure.
Jean Raspail également, je vois sur ma liste. Bon, mais ça, l'exercice qui m'a été demandé est typiquement un exercice où on se fait une multitude d'inimitiés. On ne peut pas lire les 123 et ceux qui ne sont pas nommés.
On les nommera dans d'autres occasions. Merci, mon cher Jean-Pierre Maugendre. Alors, ça se passe, il faut quand même rappeler.
Donc, je rappelle, le dimanche 14 décembre, de 11h à 18h, au Palais des Congrès de Versailles. Et donc, quatre orateurs, hein, Geneviève de Galard, Jean de Vigry, Jean Sevilla, Michel de Gégère et 124, je crois, auteurs.
C'est Versailles, rive gauche, la station.
Voilà, le plus proche, oui. Le Palais des Congrès, c'est immédiatement à proximité du château, quoi. Et quand vous êtes à Versailles, rive gauche, vous êtes à 200, 300 mètres. Quoi.
Voilà, ceux qui viennent en RER, c'est Versailles, rive gauche.
Voilà.
Puisqu'il y a trois stations à Versailles.
Alors, un auditeur pose une question qui est tout à fait intéressante, qui ne s'adresse pas à Jean-Pierre Maugendre parce qu'il n'est pas éditeur. Il dit, Jean Ferret a offert aux participants au dîner de Radio Courtoisie un livre dont le prix était de 2 euros chez Maxi Livre. Alors, qu'attendent les bons auteurs nationaux pour diffuser leurs pensées dans les mêmes conditions, sachant qu'on rentabilise une édition à 500 exemplaires? Oui, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut d'abord faire un tirage pour que ça atteigne des prix comme ça. Légèrement supérieur à 500 exemplaires, vous voyez. Et donc, si on tire effectivement à 30 ou 40 ou 50 ou 100 000 exemplaires, on arrive à avoir un livre qui vaut à peu près 20 centimes d'euros la pièce. Donc, on peut le vendre de 2 euros, étant entendu que le revendeur garde 1 euro pour lui, en gros, que l'imprimeur prend 20 centimes d'euros et qu'il reste 80 centimes d'euros pour l'éditeur et l'auteur. Mais je suppose, tout en reconnaissant son immense talent, que si le cœur de cuir de Patrick Goffman avait été tiré à 100 000 exemplaires, on aurait eu, même avec le secours de Radio Courtoisie,
il en resterait.
En France, dans le monde et même au-delà, on aurait un peu de mal à distribuer la totalité du tirage. Je ne veux pas dire de mal, Patrick, mais enfin bon, voilà. Voilà, je voulais répondre à cette question en apparence simple, mais en réalité bien compliquée.
Est-ce que vous pouvez dire où un auteur qui souhaiterait participer à votre journée peut s'adresser pour s'inscrire?
Ah, bien sûr. Donc, il faut s'adresser
à Renaissance Catholique.
Donc, à Renaissance Catholique. Alors, le numéro de téléphone 01 46 62 97 04.
Attendez, vous redites.
Excusez-moi, au 01 46 62 97 04 et par mail, comme on dit aujourd'hui, rcatholique@.
On dit courriel, monsieur Maugendre.
Courriel, c'est vrai. Mais là, c'est écrit mail. rcatholique@. Ouais, je n'ai pas été censuré sur ce point. rcatholique@wanadoo.fr. Et puis, l'adresse postale, 89 rue Pierre Brossolette, 92 130, ici les Moulineaux.
Alors, deux messages d'amis. Guy Leideux nous signale qu'il y avait tout à l'heure un débat sur l'amendement Garot sur Radio, ce qu'on appelait Radio Luxembourg, et que maintenant on appelle RTL, et qu'on y insultait le docteur Dor dans des termes qui étaient à la limite de la diffamation. Mais vous savez, les injures de nos ennemis sont des compliments qui nous vont droit au cœur.
Il va vendre des livres le 14 décembre.
C'est un plaisir gourmet que d'être traité de niais par un sot.
Et puis, Jean-Marie Molitor, vous savez ce que je disais tout à l'heure à propos du physiquement correct, parce que c'est comme ça qu'il faut appeler. Alors Jean-Marie Molitor me dit, cher Serge, afin de te rassurer sur l'abus, Jean-Marie Molitor, c'est le directeur de Minute, hein, afin de te rassurer sur l'abus de langage, la une de Minute, Chirac est sourd comme un pot, m'a valu un désabonnement pour motif suivant. Ouvrez les guillemets. Selon vos critères, je ne suis plus digne de lire Minute. En effet, je porte des aides auditives. Condamné selon vos critères, etc., etc. Et Jean-Marie dit véridique. J'imagine effectivement que c'est véridique parce que, comme disait ma conseillère, ça ne s'invente pas.
Alors, voilà. Un autre message. Suite à l'intervention de la personne qui emploie le terme de petit marquis, je lui signale que je suis marquis. que j'ai fait la guerre d'Algérie.
Non, mais c'est pour rire, ça.
Que ma famille, depuis les croisades, ont laissé de très nombreux morts sur les champs de bataille. Il ne faut pas confondre les sous-palefreniers du gouvernement, y compris M. Galouzo, ou Gattuso, je ne sais
Galouzo,
pas, qui se fait appeler de Villepin, qui se prennent pour des aristocrates avec les vrais, comme par exemple mon oncle, le maréchal Leclerc de Haute-Cloque.
Enfin, ce monsieur est un grand marquis et il ne peut pas être confondu avec les petits marquis dont parlait Roger.
C'est comme notre divin marquis ne peut pas être pris pour un petit marquis. Non, mais notre divin marquis, Jean-Pierre, tu ne sais pas ça, toi qui vis.
Du marquis d'Olmeta.
Le marquis d'Olmeta.
Et pas du...
Il souffre, oui. Et puis alors, vous avez un message personnel, Serge.
Oui.
Comment ça? Qu'est-ce que j'entends? Il n'y a pas eu de passé colonial entre la France et l'Italie? Cher Serge, je t'attends sur le trottoir du boulevard Murat à la fin de l'émission. Et c'est signé Vercingétorix.
C'est très joli.
Tout le monde s'est fait mettre en boîte ce soir.
On me demande si j'ai des nouvelles de le Ribot. Non, j'en ai pas. Et j'invite toute personne qui en aurait à m'en donner parce que ce silence ne laisse pas de m'inquiéter. Son absence me manque, comme disaient brillamment les journalistes du Monde et de la télévision. Non, j'ai pas de nouvelles. Il m'avait promis de me reprendre contact dès qu'il se serait installé dans une villégiature tranquille. Et apparemment,
Il y a un avocat du silicium organique.
Oui, c'est ça.
Mais il est en prison. Il a été arrêté par Interpol en Suisse récemment.
Ah, il a été arrêté par Interpol, j'étais pas au courant.
En Suisse, oui, et c'est très récent.
Bah, c'est incroyable, je savais qu'il était réfugié en Suisse.
Bah, c'est un terroriste dangereux.
Ah oui, je comprends bien, il fait des trucs qui sont... Il est en prison, donc, mais à quel endroit?
Il a été arrêté par Interpol en Suisse, et je peux
vous dire... C'est invraisemblable, cette histoire. Mais ce gouvernement, c'est vraiment... Mais cette mafia des laboratoires, cette mafia politicienne, c'est des criminels. Bon, on va s'en occuper sérieusement avant qu'il soit l'heure d'un cochon de lait.
Et puis quel est le titre de la chanson passée juste avant la coupure de 19h30? Moi, celle-là.
Bah, c'était le jeune tambour.
Non, c'est pas le jeune tambour.
C'est ça. Mais
c'est pas trois jeunes tambours, c'est vous.
Non, pas trois jeunes tambours, c'est le petit tambour que chantait Mélina Mouskouri.
Nana Mouskouri.
Nana Mouskouri, voilà. Mais c'était pas Nana Mouskouri qui chantait.
Non, là.
Alors, le grec a changé de sonorité.
Je rappelle aux gens qui viennent de prendre l'émission que nous avons passé deux chants de Noël en arabe qu'un auditeur vient de nous rapporter de Bethléem.
Merci Jean-Pierre.
Merci beaucoup.
Bonne retour
soirée.
Dans ton septentrion préféré.
Serge.
Je vais demander, on va faire un petit jeu de chaise musicale, si vous voulez.
Et pendant ce temps-là, est-ce que je peux vous faire les annonces?
Oui, faites donc les annonces.
Je ne serai pas épouvantée à la fin. Alors, les conférences de Saint-Germain vous proposent une conférence de Georges Paul Wagner le jeudi 4 décembre sur le nationalisme français. Salle Lumière, 4 place Saint-Germain-des-Prés, Paris 6e, le jeudi 4 décembre à 20h30, prix de l'entrée 6€ et 4,50€ pour étudiants et chômeurs. Dîner débat. Bernard Bresse, secrétaire du MNR du 17e, vous convie le vendredi 5 décembre à 20h à un dîner débat. Jean-Claude Rollina, écrivain journaliste, sur le thème démographie, immigration et islamisme, les nouveaux fardeaux de l'homme blanc. En présence de Nicolas Bay, tête de liste MNR pour l'Île-de-France. Prix 30€, réservation impérative dans les meilleurs délais au 01 47 64 15, 23, après 18h.
Je vous recommande d'y aller. Le Rollina, c'est toujours intéressant, mais si vous ne connaissez pas Nicolas Bay, voilà un garçon dont il faut faire la connaissance, parce que, à mon avis, il ira loin si les petits cochons ne mangent pas. Et si les petits cochons essayent de le manger, il risque de se faire casser les dents assez rapidement.
Il est coriace, bon, c'est bien.
Ouais, il est brillant, ce garçon.
Alors, manifestation du 6 décembre contre la Constitution européenne. Elle aura un parcours plus que réduit par la préfecture de Paris, à savoir départ place Saint-Michel à 15h, arrivée place Saint-André-des-Arts.
Oui, effectivement. Ils se foutent vraiment du monde.
Nos auditeurs de Tokyo, il y a à peu
50
près,
mètres.
Voilà.
Oui, mais les participants auront droit à de nombreux discours, un colloque en plein air en quelque sorte.
Et on y vendra le Libre Journal à la criée, en se faisant engueuler par les organisateurs, comme d'habitude.
Alors, n'oubliez pas les rosaires pour la vie, samedi 6 prochain, à 16h30, à Notre-Dame de Paris. Samedi prochain, 6 décembre, de 15h à 18h30, Thierry Bouclier dédicacera Tixier-Vignancourt. Dominique Paoli
sera invité la semaine prochaine de l'émission.
Dominique Paoli dédicacera Maxime ou le secret végan. Marie-Christine Douels dédicacera Folle, moi. Dimanche prochain, 7 décembre, grande vente de livres à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, de 9h à 9h30, à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e. Métro RER Saint-Michel-Notre-Dame. Le samedi 6 et le dimanche 7 septembre, à la Salle Wagram, rue de Montenotte, dans le 17e, de 10h à 19h, organisation d'une vente de charité kermesse de la chapelle Sainte-Germaine de Wagram. Venez nombreux. Lundi 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, croisade du rosaire, vous invite à la procession au flambeau dans les rues de Versailles. 18h30, messe solennelle à Notre-Dame de l'Espérance. 20h30, place Hoche, départ de la procession. 21h30, arrivée devant la statue de Notre-Dame de l'Ermitage, 28 rue de l'Ermitage. Croisade du Rosaire, 58 avenue Saint-Pierre, au Plessis-Trévise. Le chœur Montjoie-Saint-Denis vous convie à une vente exceptionnelle de ses œuvres le samedi 13 décembre de 15h à 19h à son siège social chez Valérie, 21 rue Campagne Première, dans le 14e.
À quelle heure ?
Eh bien, c'est de 15h à 19h.
Le mieux, c'est d'aller déjeuner, vous serez sur place pour la vente.
Voilà, c'est parfait. Et il y aura des surprises et des promos.
Ça, avec le cœur montjoie, ça, ce qui est étonnant, c'est que le surprenant, c'est qu'il n'y ait pas de surprise.
Renaissance catholique, donc je redis que c'est le dimanche 14 décembre, de 11h à 18h au Palais des Congrès de Versailles. Et puis, chant, sous le haut patronage de son éminence, Monseigneur Dominique Philippe, archevêque catholique gallican de Paris, chant et musique sacrée de Noël, Niki Nancel et de jeunes talents lyriques chanteront pour Sainte-Rita. C'est le jeudi 18 décembre à 20h à la cathédrale Sainte-Rita, 27 rue François Bonvin, Paris 15e. Concert au bénéfice de l'enfance en détresse, prix 50 euros. Champagne de l'amitié à l'issue du concert.
Oui, c'est une église où on boit le champagne. Moi, je trouve ça extrêmement sympathique quand il y a une cérémonie qui est organisée, amicale ou sympa. À la fin de la cérémonie, on sert le champagne.
On introduit les animaux, d'après ce que
j'ai... Ah, bien sûr, les animaux sont... Il y avait un âne dans la crèche. Il y avait un bœuf, il devait y avoir des moutons, donc je vois pas pourquoi on ferait pas rentrer des chiens dans une église. Hein. C'est comme disait le vieux curé de Montbolo.
Renseignement pour vous inscrire, 01 45 06 37 79.
Il y avait comme ça une très jolie histoire. C'était un vieil aristocrate allemand qui avait l'habitude de dire j'appartiens à la famille aristocratique la plus ancienne, car mes ancêtres étaient dans la crèche. Et un jour, il y a un type qui lui a répondu « Eh bon, et les descendants du bœuf, ils sont où maintenant ?» Voilà.
On nous conseille une pièce, À quoi sert de gagner le monde ? C'est une vie de Saint-François-Xavier. C'est une œuvre originale de Fabrice Adjage, mise en scène de Michel-Olivier Michel, du 7 novembre au 21 décembre, du mardi au samedi à 20h45 et le dimanche à 17h30 à l'espace Bernanos, 4 rue du Havre, Paris 9e.
J'ai rencontré des jeunes gens qui participent à cette entreprise et ils étaient extrêmement sympathiques. C'est pour ça que je fais cette annonce. Rappelez-nous, c'est espace Bernanos.
Espace 4 rue du Havre. C'est du 7 novembre au 21 décembre. Voilà. Et réservation au 06 62 13 64 76 et la FNAC, prix 17 euros et des tarifs réduits. Et puis bon, le réveillon de la Saint-Sylvestre, comme on en a parlé tout à l'heure.
Oui, ça, vous appelez le CNC pour avoir tous les détails sur le réveillon de la Saint-Sylvestre, mais on aura le temps d'en reparler d'ici là.
Bon, on en aura fini complètement avec les annonces quand j'aurai donné ces deux-là. Comme je suis peut-être l'être le plus pieux dans ce studio, c'est moi qui ai le message des dames responsables du vestiaire de Saint-Nicolas du Chardonnay. Peut-être aussi parce que j'habite à côté, je ne sais pas. En tout cas, ces excellentes dames seraient heureuses, puisque nous sommes au début de l'hiver, de recevoir des vêtements d'hommes chauds et propres, ainsi que des couvertures et duvets. Alors c'est à déposer à l'église Saint-Nicolas, dont je rappelle l'adresse, 23 rue des Bernardins,
Paris 5e, métro Maubert, mutualité. Et entrer dans l'église et demander la salle des catéchismes. C'est là que se tient ce vestiaire. Et puis en dernier lieu, je serai heureux, puisque je m'y rendrai, de faire à nouveau la connaissance d'auditeurs ou de revoir des auditeurs demain 4 décembre, à l'occasion de la conférence de notre ami maître Georges-Paul Wagner sur le thème « Le nationalisme français ». Ça coûte 6 euros de participation et c'est à la salle Lumière, 4 place Saint-Germain-des-Prés, métro Saint-Germain-des-Prés.
Donc, voilà. Je rappelle, oui. Renaissance catholique, c'est le dimanche 14 décembre de 11h à 18h au Palais des Congrès de Versailles.
Et un auditeur demande si Pierre Klostermann sera là et son nom ne figure pas dans la liste.
Et voilà. Puis, pour le dîner avec Jean-Claude Rollina, il faut téléphoner au 01 47 64 15 23 après 18h.
Et enfin, un auditeur demande le nom de l'auteur du livre sur les négriers, dans lequel il est question de l'ancêtre de Pierre Mendès France. Je crois que, il me semble me rappeler que son nom est Pluchon. Je crois que c'est Ernest Pluchon, mais j'en suis pas certain. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me téléphoner au Libre Journal. Demain après-midi, je vous donnerai les précisions à cet égard. À cet égard du Nord, bien entendu, mais je le précise quand même. Prenez pas cet air navré.
Vous êtes tout près de la gare de l'Est aussi.
Oui, c'est vrai, on a le choix. Et pas très loin de Saint-Lazare. Et donc, je donnerai toutes les précisions, mais je dois surtout indiquer que le livre est épuisé, d'ailleurs, comme moi-même. Voilà. C'est tout. Ah non, il faut rappeler les coordonnées du dîner de Roger. On nous demande. À Rony.
Ah oui, attendez, c'est pas très loin.
Cherchez-moi.
Alors,
ça.
Roger Olyndre, donc, donne un dîner-conférence dans son Rony natal dans le 93, la Seine-Saint-Denis. C'est le 12 décembre à 19h30. Participation 22 euros. Réservation au 01 45 28 40 01.
Voilà. Eh bien, je reçois de nouveau Monsieur Crémieux et Monsieur Dilly, qui représentent le Séché. Alors, pourquoi je reçois ces deux messieurs ce soir, alors que je vous ai déjà reçu il y a 15 jours? D'abord parce que le sujet m'intéresse, c'est quand même la bonne raison, mais aussi parce que visiblement ça a intéressé beaucoup d'auditeurs, j'ai eu beaucoup de réactions positives. Quelques réactions négatives ou rigolardes, mais en tout cas, ça fait parler. Alors, on va reprendre à zéro, puisque la dernière fois, vous aviez eu très peu de temps pour parler, et je vous avais promis de vous donner un petit peu plus de temps, et là, vous allez voir, pratiquement trois quarts d'heure, je pense qu'on va pouvoir bien expliquer en quoi consiste l'activité, enfin, en quoi consiste votre cercle, et quelle est son activité, quelles sont ses publications, et quels sont ses fondements. Je veux pas dire idéologique parce que c'est pas de l'idéologie, mais c'est exactement l'inverse, oui.
C'est fondé sur le réel.
Alors, vous allez nous expliquer tout ça. Je voudrais d'abord que vous vous présentiez. Vous, monsieur Crémieux, vous êtes ingénieur chimiste.
De formation, oui, je suis ingénieur chimiste.
Et
je travaille comme tel.
Vous, monsieur Dilly, vous êtes artisan.
C'est exact. Hein.
Et donc, on a un éventail assez large de compétences puisque on a un homme qui travaille plutôt la plume à la main, parce que la chimie, c'est maintenant beaucoup par, j'imagine, par...
Même avec des ordinateurs, oui.
Oui, avec des ordinateurs, là. Et tandis que vous, vous ne faites pas encore de meubles par ordinateur.
Ça se fait, mais en Chine.
En Chine,
ça va. La conception assistée par ordinateur, dessine des meubles, des voitures et tout ce qu'on veut.
Et à propos de conception assistée par ordinateur, je raconte toujours l'histoire du... J'ai dû le raconter 100 fois ici. De la première bretelle d'accès à Orly qui a été construite avec des ordinateurs, à l'époque qui étaient des armoires gigantesques, par des spécialistes. Et quand en béton précontraint, et quand le travail a été terminé, on a invité des compagnons du devoir, des compagnons charpentiers, pour leur montrer ce qu'on faisait avec du béton précontraint. Ils sont arrivés, et un vieux compagnon a regardé, enfin un vieux maître, Regardez ça, il a dit ça. Le premier camion qui passe, ça se casse la gueule. Alors les gars ont dit, oh, vous plaisantez. Moi, je suis ingénieur des ponts, moi, je suis ingénieur ceci, j'ai ingénieur. Et on a fait ça par ordinateur, vous pensez bien, avec la résistance des matériaux, etc. On sait ce qu'on fait, etc. Il a dit, bah écoutez, on verra bien, alors essayez. Et ils ont fait ce qu'on fait pour essayer les ponts. C'est-à-dire qu'ils ont chargé des camions avec du caillou, du sable. Et ils ont envoyé un premier camion. Et le camion est arrivé à mi-pente. Et puis le deuxième camion s'est engagé. À ce moment-là, tout le team s'est foutu la gueule par terre. Et les compagnons du devoir de liberté sont rentrés chez eux assez contents d'avoir eu raison contre tous les ordinateurs. Donc vous voyez que vous n'avez pas besoin forcément d'ordinateur pour faire de la conception de meubles assistés par le SUSDI. Alors donc, un chimiste, un artisan qui s'occupe, avec d'autres personnalités, du sécher. Alors, qu'est-ce que c'est que le sécher ? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, sécher ?
Alors, sécher, cela veut dire cercle d'études scientifiques et historiques. Donc, c'est un cercle qui a été créé il y a maintenant 30 ans et qui a pour but l'étude, la diffusion des travaux de Fernand Combette et en même temps, de manière plus générale, la défense d'un des dogmes, je le rappelle souvent parce que les catholiques souvent l'ignorent, d'un des dogmes de l'Église catholique, l'inhérence biblique.
Qu'est-ce que ça veut dire l'inhérence biblique ?
Eh bien qu'elle n'a pas d'erreur, qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Les seules erreurs qui peuvent intervenir sont des erreurs d'interprétation, des erreurs de transcription, mais il n'y a pas d'erreur dans la Bible, puisque l'auteur du livre saint est Dieu lui-même. Et donc, il y a eu des attaques qui ont été développées au cours des siècles, qui se sont accentuées assez récemment, et il est nécessaire de défendre les livres saints, puisque c'est la parole de Dieu. Effectivement, pour de manière plus générale, je crois que vos auditeurs en sont bien conscients, et le monde moderne est en crise. Il y a une crise sociale, une crise morale, politique, philosophique, économique, religieuse. Le monde moderne est en crise. Or, il n'y a pas de guérison sans une bonne médication, et il n'y a pas de bonne médication sans un bon diagnostic. Je crois que certains de vos auditeurs sont adeptes des médecines telles que l'homéopathie. Non, pourquoi ? Parce que ils souhaitent soigner le terrain, c'est-à-dire soigner les causes et non uniquement les symptômes. La crise est due à quoi ? Elle est due, pour une bonne part, à la laïcisation du monde, c'est-à-dire à la séparation du pouvoir politique, du pouvoir temporel, avec le pouvoir spirituel. Et quelle est l'origine de cette séparation ? Eh bien, l'origine principale, c'est la laïcisation de la vision du monde. C'est-à-dire cette séparation, cette négation de la vision biblique qui prévalait dans le passé et qui avait été toujours défendue par les auteurs jusqu'à Bossuet. Je ne sais pas si vous avez lu le Bossuet sur l'histoire du monde. C'est absolument très clair. Il reprend toutes les traditions bibliques et les expose. Or, ceci est contesté. Or, comme le disait Orwell, celui qui contrôle le passé contrôle l'avenir. C'est le combat culturel qu'avait bien compris Gramsci. Donc notre combat s'insère dans un combat culturel de restauration chrétienne. Tout à l'heure, on parlait de renaissance catholique. Je pense que ça en fait partie.
Est-ce qu'on ne peut pas penser que finalement, c'est le point de vue de l'homme sur l'écriture qui change, l'écriture étant inhérent, enfin étant, comment dire, privilégié par son statut d'inhérence, c'est-à-dire qu'il ne peut pas dire autre chose que la vérité, c'est la compréhension de cette écriture qui change. C'est-à-dire que nos ancêtres la comprenaient avec leur bagage scientifique, et nos scientifiques actuels la comprennent avec un bagage différent, c'est-à-dire qu'ils la comprennent autrement. Et par conséquent, pour prendre un exemple élémentaire, on nous dit, on oppose le créationnisme et l'évolutionnisme, ce qui est le cas d'un papier publié par le Libre Journal récemment sous la signature de Laurent Glosi. Donc on oppose ces deux visions du monde, de la création, de la vie en quelque sorte. La vie est-elle une création ou est-elle le fruit d'une évolution ? Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer que il s'agit plus exactement d'un point de vue, c'est-à-dire que quand on regarde la création, quand on est créationniste, c'est un peu comme si on voyait un tableau en disant bon, ce tableau représente un portrait, le portrait d'un être humain, alors que si on voit en termes d'évolution, on dit ce tableau représente à l'aide d'une toile, de peinture appliquée avec des pinceaux, de produits chimiques divers pour assurer le maintien de la peinture, pour assurer le vernissage de cette peinture, etc. Quelque chose qui reproduit le visage humain. La réalité n'est pas le fait que le tableau existe n'est pas changé. Ce qui change, c'est que il y a une explication qui est holistique, qui est brutale. On dit voilà, c'est un être humain, c'est le portrait d'un être humain, et l'autre qui dit une vérité plus travaillée, c'est-à-dire c'est un mélange de couleurs qui aboutit à représenter un être humain.
Oui, alors il ne peut pas quand même subsister à moins de revenir au mécanisme de la double pensée, là aussi cher à Orwell. On ne peut pas voir à la fois l'évolution, à la fois la création. Il faut un moment choisir.
Je veux bien, mais est-ce que c'est pas possible de dire que quand Dieu crée, étant donné que un jour c'est comme, enfin mille ans sont comme un jour pour Dieu, au moment où il crée, il met en route, il y a un processus, le processus de la création, et que nous voyons en quelque sorte beaucoup plus lentement. C'est-à-dire on voit tout le processus qui aboutit à la création. Je pose la question, je dis pas que.
Il est écrit dans la Genèse que Dieu a créé chacun selon son espèce. Donc les espèces ont été créées séparément.
D'accord.
Et par conséquent, la théorie de l'évolution semble difficilement compréhensible. En même temps, vous vous souvenez de cette phrase de saint Paul, la mort est rentrée dans le monde à cause du péché d'un seul. Et il n'y avait donc pas de mort avant le péché originel. Et s'il n'y a pas de mort avant le péché originel, il ne peut pas y avoir eu de processus évolutif dans lequel les espèces auraient disparu au fur et à mesure. Donc il s'agit d'un combat culturel extrêmement large qui pour l'instant a été gagné par les opposants à la foi catholique, mais c'est un combat qui est utilisé avec des armes. Vous parliez tout à l'heure, ne pourrions-nous pas considérer. Effectivement, il parle à travers des schémas mentaux qu'il habillait à travers un discours scientifique, mais ce même discours scientifique rend aussi, avec autant de pertinence, autant de sérieux, rend autant compte de la gloire de Dieu à travers la création. Ça me semble assez évident. Et pour revenir à Fernand Combette, puisque c'est un petit peu le centre de notre association, Joseph de Maistre, dans les soirées de Saint-Pétersbourg, avait souhaité et en même temps prophétisé l'arrivée d'un homme de génie qui serait à la fois un homme de science et un homme de foi, qui permettrait de mettre fin à ce conflit qui durait pour lui déjà depuis trop longtemps. Et il disait que cet homme pouvait arriver assez rapidement. Et nous pensons, nous au CG, que cet homme est arrivé, et qu'il s'appelle Fernand Combette, et que son souhait et ses prophéties ont été réalisées au-delà de ce qu'il pouvait imaginer, puisque Fernand Combette a écrit plus de 16 000 pages défendant l'inhérence biblique sur des thèmes aussi variés que l'Égypte, la géographie, la Crète, les Hittites, les Aztèques, l'île de Pâques, l'Atlantide, l'exégèse, l'astronomie, un travail à la fois scientifique très sérieux que l'on peut vérifier, que l'on travaille, et en même temps un travail passionnant à lire.
Alors, Combette, moi je suis fasciné par ce personnage parce que d'abord c'est un héros au sens le plus pur. C'est un homme qui consacre sa vie à une œuvre et qui affronte tous les inconvénients liés à cet engagement avec une sérénité absolue. On va en reparler, mais je voudrais dire que vous aussi, les gens qui animent le séché, vous êtes un peu dans cette disposition-là parce que quand on voit les premières réactions d'auditeurs, on se dit que le travail que vous avez entrepris, c'est un travail littéralement titanesque. Par exemple, pour rattraper toutes les cochonneries qui ont été mises dans la tête des gens depuis des années, des dizaines d'années, pour les enlever, pour les remplacer par la vérité, il y a un travail formidable à faire. Y compris d'ailleurs toutes les idées sottes, fausses, qui ont été tolérées par l'Église. Pas par l'Église en tant que en tant que corps du Christ, mais par l'Église en tant qu'institution.
Oui.
Par exemple, un auditeur nous dit, vous venez de dire que l'auteur des livres saints est Dieu, vous confondez avec le Coran. Donc voilà quelqu'un qui nous écoute et qui ne sait pas que le Pentateuque a été dicté. Enfin, que, en tout cas, la Genèse.
Inspirée.
Inspirée, c'est-à-dire dictée, en fait, inspirée par Dieu. Donc il y a un gros travail de.
Je voudrais reprendre cette
phrase. Réforme catholique.
Ben c'est, oui, ce sont les écuries de Augias. Hein, c'est un travail gigantesque, comme vous le disiez. Mais il a déjà été réalisé, j'allais dire. Le plus dur a été fait par Fernand Crombette. Il faut maintenant prendre sa suite et travailler sur le sujet. Mais beaucoup de portes ont été ouvertes. Aux personnes, à vos auditeurs, je pense qu'il est intéressant de rappeler cette phrase de Saint Jean, qui vit et donc il cite Notre Seigneur. Je n'ai plus la référence exacte en texte, mais vous pouvez la vérifier dans vos évangiles, où donc Notre Seigneur dit « Si vous ne croyez pas au récit de Moïse, comment croirez-vous en mes paroles ?» C'est une phrase très lourde de conséquences. Si vous ne croyez pas au récit de Moïse, le récit de Moïse, c'est donc le Pentateuque, c'est-à-dire la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, donc la Genèse. La Genèse aussi, si vous ne croyez pas au récit de Moïse, c'est-à-dire si vous ne croyez pas à l'histoire du monde passé, à la création, comment allez-vous croire à mes paroles? Donc c'est un enjeu que notre Seigneur lui-même avait déjà souligné.
Et on peut mesurer l'importance de ce que vous dites aux réactions. Moi, je crois beaucoup que c'est comme ça qu'on juge. Et là, vous allez voir, je vais vous lire un message qui est intéressant parce qu'il est à la fois, il a une volonté de blesser et il est parfaitement idiot. Parce qu'il ignore l'histoire de France, visiblement. C'est un auditeur qui dit « Vos intervenants viennent des poubelles de la Sorbonne. Ils sont ridicules. » Alors, moi, je crois qu'au bout, ça fait quoi, 5 minutes que vous parlez. C'est un petit peu abusif, au bout de 5 minutes, de conclure que des gens sortent d'une poubelle. Il faut peut-être laisser développer un peu plus leur pensée avant de porter un jugement. Et on peut dire « Je suis pas d'accord avec votre analyse » ou « Je suis pas d'accord avec votre interprétation. » Mais de là à vous les voir sortir d'une poubelle, ça me paraît abusif. Mais surtout, prendre la Sorbonne comme référence, quand on sait, par exemple, que la Sorbonne et les Sorbonnagres sont les hommes qui ont envoyé Jeanne d'Arc au bûcher, évidemment, vous êtes donc là un peu dans la position de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc a été envoyée au crématorium, vous avez été envoyé aux poubelles par la Sorbonne, c'est plutôt une espèce de légion d'honneur.
Oui, mais pour reprendre ce que disait Monsieur Maujean tout à l'heure, il reprenait ce trait d'esprit de Champfort, être pris pour un idiot de la part d'un imbécile est un plaisir de fin gourmet, et nous goûtons avec plaisir ce genre de propos.
Alors,
je dois dire un petit mot. C'est tomber un peu dans une dialectique un peu facile de mettre d'un côté la foi et de l'autre côté la science, en considérant que la science est un savoir qui est démontrable et démontré, et que la foi n'est qu'un acte ou un sentiment de l'esprit ou de la subjectivité. Il n'en va pas de même, et en particulier depuis la grande fracture dans la pensée qui a été opérée par Kant, tout bon scientifique qui se respecte, et tout épistémologue, sait très bien que la science ne connaît pas le réel, elle n'a qu'un discours sur le réel. Et elle ne saisit du réel que la représentation qu'elle s'en fait. Et derrière cette représentation, il y a à chaque fois un enjeu philosophique et religieux.
Les savants les plus avancés, c'est pratiquement la plus grande découverte récente, tout à fait récente de la science, c'est cette certitude absolue qu'on ne peut pas examiner le réel parce que le seul fait qu'on porte un regard sur lui...
Le modifie.
Voilà. Et donc, c'est pas du tout être arriéré que de dire que le discours de la science sur la réalité n'est pas le discours de la réalité, puisque ça fait partie des découvertes les plus récentes de la physique quantique.
Et donc, comme l'esprit humain procède par la mise en place d'hypothèses à l'intérieur de la science moderne, elle repose sur une théorie sous-jacente. Et cette théorie sous-jacente, il faut bien aller la trouver à travers une représentation du monde que l'on se fait. Et cette représentation du monde est antérieure à la vérification des hypothèses. Si tant est jamais, elle est possible. Mais en prenant, comme vous parliez tout à l'heure de la théorie de l'évolution, comment voulez-vous obtenir la preuve d'un événement qui s'est passé dans le temps et qui n'est plus reproduisible? Donc vous êtes incapable d'apporter la preuve de ce que vous dites. On est en pleine fabrication poétique de discours. Et je mets au défi le moindre scientifique de m'apporter la preuve de la réalité de la théorie de l'évolution. C'est absolument impossible, puisqu'ils ne peuvent pas reproduire les événements qui se sont produits, paraît-il, il y a des centaines de millions d'années. Donc leur savoir, pour l'instant, n'est pas un savoir. C'est un enjeu idéologique qui sert à remplir les esprits d'une vision du monde particulière, dont on se servira ensuite pour des intérêts particuliers. Le séché, lui, très simplement n'a pas d'intérêt particulier à défendre, il défend tout simplement ce que Dieu nous a dit depuis un certain nombre de milliers d'années. Et est-ce que cette vision correspond à ce que l'on peut découvrir en observant la nature, en regardant l'histoire, et est-ce que c'est valable? C'est toute l'entreprise de Fernand Combette. Fernand Combette n'est pas parti en se disant « la Bible a raison ». C'est en observant la réalité du monde, et en particulier dans sa géographie sacrée, dans sa géographie divine, mais excusez-moi, qu'il s'est rendu compte que la Bible l'avait guidé et avait raison. Et c'est cette démarche qui l'a conduit à dire, mais enfin, à la fin, loin d'être l'éteignoir de la raison, la foi en est la lumière.
Et puis en plus, la contradiction, on se demande d'où elle prend sa source. Il y a deux messages qui témoignent de ça. Il y a un message qui vous dit, si le monde a au maximum 10 000 ans, alors à quelle époque correspondent les hommes préhistoriques? Et un autre message qui
dit, intéressant.
Comment pouvez-vous prétendre que la Terre n'existe que depuis 4 000 ans? Donc d'abord, vous prétendez quoi? Elle a 4 000, 10 000, 12 000?
On prétend rien. Au Seychelles, on ne prétend rien. Les gens sont libres d'esprit. Ils ont le droit de travailler librement. Nous pensons effectivement que les dates qui données pour la création sont beaucoup plus courtes que celles officiellement admises. Et que, comme le pensait aussi Bossuet, c'est pas si vieux Bossuet. La Terre, la création, selon le compute biblique, création de l'homme, c'est 4000 ans avant Jésus-Christ. Et je rappelle, puisque nous allons arriver dans le temps de Noël, que nous allons chanter, depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet événement.
Nous le promettaient les prophètes.
Nous le promettaient, pardon, les prophètes. Depuis plus de 4000 ans. Mais est-ce que l'on comprend ce que l'on est en train de dire? Mais c'est ce à quoi on a toujours cru et qui a été modifié. La victoire de nos ennemis, dont on sent sensiblement lorsque l'on sent leur victoire, elle s'est acquise par la modification de la pensée, de la modification de la façon dont on voyait la Genèse. À partir du moment où une autre vue du monde s'est imposée de manière totalement tyrannique, eh bien, nous avons perdu la bataille.
C'est une conquête. Elle est surtout dans la paralysie de l'esprit critique par la dérision et l'agressivité. Parce que il est évident qu'un message comme celui-là consiste à dire il suffit, vous voulez savoir à quand remonte la création de l'homme, vous ouvrez la Bible et vous regardez la création d'Adam. Et comme il y a les générations d'Adam, vous faites le total, vous calculez,
oui.
C'est public, les chiffres sont là, et vous verrez que...
Il y a des éléments scientifiques en plus qui vont dans ce sens-là. Puisque...
Vous verrez que la date est fixe, on la connaît, on sait très exactement à quelle date de la création, autrement dit à quelle distance de la création, autrement dit à quelle distance de la naissance du Christ, le déluge a eu lieu, c'est daté, tout simplement.
Absolument.
Par l'existence de Noé. Au mieux, on vous donne des médicaments et au pire, on vous met une camisole de force.
Oui, et effectivement, mais c'est intéressant, ça veut dire qu'on gêne. Ça veut dire qu'on met le doigt là où ça fait mal. Et notre attitude n'est pas anti-scientifique, c'est effectivement la Bible qui éclaire, la parole de Dieu qui éclaire les travaux. Mais à côté de cela, il y a des travaux scientifiques. Les longues datations se sont imposées à travers l'échelle des trans stratigraphiques, et c'est-à-dire les couches géologiques que l'on on considère que plus elles sont profondes, plus elles sont vieilles. C'est comme ça qu'on a daté pour des centaines de millions d'années et qu'on a donc rendu possible la théorie de l'évolution. Or, des travaux extrêmement importants menés par notre vice-président, qui est un polytechnicien, Monsieur Guy Berthaud, membre de la Société géologique de France, dont les travaux ont été publiés à l'Académie des sciences, où il montre que la stratification peut se faire en quelques minutes. Il l'a reproduite et on a un exemple très clair. C'est un exemple dont on parle d'ailleurs très peu dans les médias. C'est l'explosion du mont Sainte-Hélène aux États-Unis, qui dans les années 80 a explosé. C'était une gigantesque explosion qu'on avait prévue. On avait fait évacuer toutes les personnes aux alentours et il s'est créé un canyon de plus de 40 mètres de haut, parfaitement stratifié. Et il n'a donc pas fallu des millions d'années pour faire ces magnifiques strates.
Il y a une autre preuve, c'est le fameux arbre dont les racines ont 100 ans alors que la tête a 12 000 ans.
C'est-à-dire qu'il y a des arbres qui traversent des couches géologiques fossilisées et on a expliqué, donc il faudrait quand même nous expliquer que les racines ont 300 millions d'années. années de plus que les branches.
Ou le contraire, si l'arbre est tombé à l'envers.
Ouais, à l'envers. Donc tout ceci n'est pas sérieux. Le déluge est une explication de l'orogenèse. Elle avait toujours été prise en compte par les scientifiques avant cette victoire de l'athéisme moderne. Et elle a toujours été prise en compte. Je pourrais reciter Mélanie de la Sanette qui à son confesseur, qui l'interrogeait sur les couches géologiques. Son confesseur, c'était le père Combes, pas le petit père Combes, mais le père Combes. Et
c'est dur à vivre quand même.
Elle lui disait, mais les couches géologiques prouvent qu'il y a eu des centaines de millions d'années. Et la souris, elle dit non, elles se sont formées lors du déluge. C'est un appui assez intéressant.
Alors, vous faites évidemment énormément référence à la foi, puisque c'est de votre revue s'appelle d'ailleurs Science et foi.
Oui.
Et vous faites référence au magistère de l'Église, mais je me suis laissé dire à la suite de la dernière émission, d'ailleurs, que vous étiez assez sérieusement contesté par des prêtres, y compris par des prêtres traditionnalistes qui prétendent que vous présentez une espèce de danger probablement gnostico, je ne sais quoi.
Mon Dieu.
Vous avez eu des réactions de ce genre ?
Oui, effectivement. C'est assez d'ailleurs curieux de nous accuser d'être gnostiques, en même temps de nous traiter de fondamentalistes. Parce que si l'on retient que la lettre de la Bible, on peut difficilement n'y voir qu'une allégorie. C'est parfaitement contradictoire. Effectivement, il y a eu des attaques, mais ce n'est pas nouveau. Je crois que lorsque un apport arrive, les docteurs de la loi se rebellent. Je vous rappellerai à tous les traditionnalistes qui nous attaquent, mais ils ne sont pas si nombreux que cela, parce que peu connaissent réellement le sujet, aucun ou presque n'ont lu Fernand Crombette, ce qui est d'ailleurs pathétique. Lorsque Saint Thomas a introduit l'aristotélisme à l'université de Paris, et ça s'est pas fait sans les heurts des traditionnalistes de l'époque qui se réclamaient de l'augustinisme. Et on pourrait rappeler les condamnations de l'évêque Tempier à l'égard de Sigier de Brabant. Les nouveautés mettent un peu de temps à être digérées. Mais je vois pas comment on peut nous attaquer alors que nous défendons, la vérité de la Bible. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces mêmes personnes, mais qui sont, bon, on peut pas passer non plus trop de temps sur elles, mais ces mêmes personnes qui nous attaquent alors que nous ne faisons que défendre la Bible sont d'un silence absolument assourdissant lorsque la Bible elle-même est attaquée de manière extrêmement virulente. Je pourrais citer les livres de Guy Rachet ou les livres de Finkelstein qui démontent complètement l'histoire biblique, ils la réduisent à néant, et alors là ils sont d'un silence absolument assourdissant. C'est quand même tout à fait étonnant.
Enfin, un des reproches qui vous est fait, il est d'ailleurs reproduit ici par un auditeur qui dit « Ne considérez-vous pas la Bible comme un livre de science ? C'est l'erreur qu'il faut éviter malgré tout de faire, même si tout y est authentique en matière de foi et de mœurs, y compris le récit du péché originel et donc de la création. Ce que je vous reproche, alors là vous allez tomber par terre, moi je l'ai relu trois fois pour être sûr, ce que je vous reproche, c'est un éventuel rationalisme. »
Oui, effectivement, là, c'est difficilement conciliable. Je crois que la personne oublie qu'il y a quatre sens dans l'Écriture qui ont toujours été reconnus par l'Église, dont le premier qui le fonde, ou alors on tombe dans la pure subjectivité, c'est le sens littéral. Le sens littéral fait partie des quatre sens de lecture de l'Écriture. Le déluge est quand même expliqué de manière de long en large et en travers dans l'Écriture. Si vous l'excluez du champ de la connaissance du passé, comment pouvez-vous le concilier avec une inhérence biblique ? Enfin, vous arrivez à des contradictions qui sont schizophréniques.
En plus, on a l'impression que dans sa délicatesse, le Créateur nous dit je vous donne une indication que c'est pas simplement du baratin ce que je vous raconte. Puisque quand il est question du déluge, il nous est donné par la Bible un manuel technique de fabrication de l'arche de Noé.
Absolument.
Et ça, quand on lit ça, on se dit quand même pourquoi le bon Dieu perd-il son temps à expliquer qu'il faut que ça fasse telle longueur, qu'il faut qu'il y ait une ouverture à tel endroit et tout. Ça a l'air ridicule, mais moi je le reçois comme une façon de dire vous voyez que quand je m'occupe de vous, je m'occupe de vous complètement, y compris dans les affaires les plus triviales. On retrouve ça au moment de la construction de l'arche d'alliance, où toutes les indications sont données. C'est bien qu'on peut fabriquer aujourd'hui l'Arche d'Alliance.
Et attention, oui. Je voulais tout simplement rappeler que pourquoi Dieu nous donnerait-il un livre dans lequel les traités de mœurs sont exacts et vrais et justes pour l'homme et son histoire est fausse? C'est absolument contradictoire. Comment voulez-vous que l'homme qui, lui, lit la Bible puisse faire la part des choses? Et c'est justement là où les philosophes des Lumières ont attaqué. Ils n'ont pas attaqué la foi directement. Voltaire était trop malin pour faire ça. Il sait très bien que c'était en attaquant ce qu'il appelait le discours de Moïse sur la chronologie courte qu'il allait avoir les meilleurs résultats. Et tout le XVIIIe siècle est la montée en puissance de l'esprit des Lumières, de l'esprit de la science, qui doit arriver à terme à la chronologie longue. Et cette chronologie longue est le premier coin enfoncé dans l'âme du chrétien qui le place en fait devant un phénomène de schizophrénie. La Bible, d'une certaine manière, dit vrai, et d'une autre manière, se trompe complètement. À la fin, il ne reste plus rien.
C'est d'ailleurs à cette époque, ou à peu près, que les scientifiques ou les savants du temps disaient, je ne sais plus lequel disait ça, j'ai le nom en tête, mais je ne suis pas certain, donc je préfère pas m'aventurer, il ne peut pas y avoir de météorites, il ne peut pas tomber de pierre du ciel, tout simplement parce qu'il n'y a pas de pierre dans le ciel. Donc là, on voit la validité des convictions scientifiques. Et à l'époque, donc, quelqu'un qui considérait que les pierres tombaient du ciel devait être jugé comme un dangereux malade, probablement comme un membre du séché aujourd'hui.
Oui, mais en plus, notre discours peut être critiqué. À partir du moment où les critiques ne sont pas des grandes incantations.
Ah, c'est ce que fait un auditeur qui est paléontologue et qui écrit en toute amitié, dit-il. Hein. On ne peut remettre en cause aussi légèrement des dizaines d'années de travaux scientifiques qui ont apporté les preuves de l'évolution. Cela ne remet absolument pas en cause Dieu et sa création. Les paléontologues ont réuni des quantités de preuves concrètes. Alors, vous demandiez tout à l'heure des preuves de l'évolution.
Ben, qu'on nous les donne.
Oui, pour l'instant, parce que là, pour l'instant, il y a des preuves.
Pour l'instant, on nous dit qu'on a des preuves, mais on n'en a pas beaucoup, là.
On est encore là pour...
Le paléontologue, j'avais pas l'intention d'intervenir du tout, mais là, quand même, le paléontologue, s'il pouvait vous répondre, vous demanderait ce que vous faites, par exemple, des squelettes entiers de diplodocus qui n'ont peut-être pas tous fabriqué.
Non. Mais on conteste pas la présence des diplodocus. Mais
pourquoi serait-il pas disparu?
Par contre,
d'ailleurs, il y a un article.
Par contre, le paléontologue ne répond pas à la question de savoir pourquoi tous les diplodocus se trouvent dans les couches. De manière extrêmement singulière ou à travers les couches. Ça, il n'y répond pas. Pourquoi on trouve des diplodocus avec des mammifères ou des choses comme ça? Ça, il n'y répond pas.
Non, le fait qu'il y ait des diplodocus ou tout un tas de choses, nous l'interprétons de manière tout à fait scientifique à travers le déluge. Je vois pas où est la difficulté dedans. C'est un schéma, c'est un modèle. C'est un modèle où vous avez un modèle de durée longue et vous interprétez tout en fonction des durées longues. Vous avez un modèle de durée courte, celui qui prévalait jusqu'il y a finalement peu de temps, et vous l'interprétez, cette catastrophe, comme le déluge.
Enfin, je crois que c'est intéressant et original dans la façon dont vous considérez les événements. C'est que vous attachez de l'importance, vous attachez du prix aux choses qui sont écrites ou pas seulement dans l'écriture, mais ça m'a frappé. On parlait des diplodocus, des dinosaures, enfin bon. Or, il y a un papier très intéressant dans Science et Foi qui prend comme sujet d'étude les histoires, les contes, les légendes et les témoignages, les chroniques, oui, où apparaissent des serpents géants, des dragons, des serpents volants, des choses comme ça. Ça appartient au folklore, ça appartient à la tradition. C'est pas tombé du ciel. Il y a des gens qui l'ont vu, il y a des chroniques qui témoignent de l'existence d'animaux bizarres qui arrivent et qui mangent le bétail, etc. Or, si on les regarde avec notre connaissance d'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas y reconnaître des animaux qui ressemblent à des dinosaures et qui seraient en quelque sorte des fossiles vivants. Alors on nous dit à ce moment-là, mais c'est complètement ridicule, il peut pas y avoir des millions d'années après la disparition des dinosaures survivants. Des millions d'années sans doute pas, mais quelques milliers d'années sans doute.
Et le sélacanthe qu'on pêche au large de Madagascar qui a disparu depuis des millions d'années.
Voilà. Et puis il y a une quinzaine d'années, des pêcheurs chinois ont ramené dans leur filet un plésiosaure.
Alors,
il aurait dû normalement avoir disparu
vite, c'est incroyable,
quelques centaines de millions d'années.
Je voudrais que vous nous parliez maintenant de Crombette que vous...
Alors, Fernand Crombette, bon, évidemment, je ne peux pas résumer, 16 000 pages, un dictionnaire hiéroglyphitite copte, un dictionnaire latin copte, copte latin, hiéroglyphe égyptien copte, hiéroglyphe crétois copte. Bon, c'est un travail gigantesque. On ne peut pas le résumer. Fernand Crombette, donc, est né en 1880 à Loos, les Lilles, juste à côté de Lille. Et bon, pour toute sa vie, toute sa biographie, on va pas prendre trop de temps. En nous contactant, vous en saurez beaucoup plus. Mais Fernand Crombette a fait un travail. Il a commencé son travail de manière un peu anecdotique. C'est assez intéressant. C'est son premier travail, c'est la géographie divine. Sa fille, qui était étudiante aux Beaux-Arts de Lille, devait réaliser un tableau sur le thème des saintes femmes au tombeau. Et Fernand Crombette a ouvert sa Bible et par hasard, entre guillemets, on pense plutôt de manière providentielle, est tombé sur le psaume 73, verset 12 du psaume 73, et Dieu, notre roi des avant les siècles, a opéré le salut au milieu de la terre. Le milieu de la terre, c'est Jérusalem. Or, Jérusalem n'est pas au centre du monde. Et il se souvient des travaux du géographe allemand Wegener, mort en 1930, qui avait essayé de reconstituer ce que les géographes appellent la Pangée, cette espèce de continent unique qu'il a essayé de reconstituer avec, on le voit, vous savez, le Brésil qui s'intercale bien dans l'Afrique. Et Fernand Crombette a cru, lui, à l'existence du déluge, éclairé par la foi, le déluge qui a consisté dans une pluie gigantesque sur toute la surface de la Terre. Il a imaginé l'existence d'un anneau à queue, comme les anneaux de Saturne, conforme d'ailleurs aussi à la cosmogonie de Kant, et aussi à la Bible, puisqu'elle parle des eaux du dessus du firmament et des eaux d'en dessous du firmament. Et l'idée géniale de Fernand Crombette, ça va être de ne pas s'arrêter à la profondeur actuelle des continents. Il va se rendre compte que les continents et les îles sont roulés d'un soubassement qui est noyé à une faible profondeur, qui descend à pente très douce jusque 200 mètres, et puis de manière plus rapide à 2000 mètres, avant de s'effondrer dans les fonds abyssaux. Et l'idée géniale, ça va être de recoller les continent, non pas à partir de la hauteur actuelle, mais à partir de la côte bathymétrique, moins 2000 mètres. Et là, au stupeur, et en partant des îles Malouines ou Falklands, selon vos conceptions.
En France, c'est
Malouines.
En Argentine, c'est Malvinas.
Malvinas. Et il va donc partir de cela, et il va faire un travail scientifique. C'est plusieurs centaines de pages des cartes extraordinaires, et il va, à partir de cette côte bathymétrique moins 2000 mètres, reconstituer le continent unique primitif avec qui ressemble à une fleur à 8 pétales, dont le centre est Jérusalem et qui est baigné par 4 fleuves, les 4 fleuves dont il est fait mention dans la Genèse, le Tigre, l'Euphrate, le Fison et le Géant. Et alors évidemment, vous ne pouvez pas nier que si la Terre n'a que 4000 ans, qu'elle est au centre de l'univers, dont Jérusalem était au centre du continent unique primitif, c'est la même chose que si c'est un bout de caillou perdu dans les confins de l'espace infini dont les silences éternels auraient de quoi nous effrayer, où la vie serait apparue par hasard dans une flaque d'eau, ou éventuellement avec l'intervention d'un grand architecte dans une flaque d'eau, et aurait évolué de l'amibe jusqu'au dinosaure. C'est une vision du monde complètement confuse.
Il ne peut pas y avoir de grand architecte parce qu'il n'y a pas de promoteur. Donc ça marche pas leur truc.
Donc c'est une vision du monde complètement différente. Alors sa géographie divine, c'est un travail époustouflant, mais il a fait d'autres choses. Il a travaillé sur l'Atlantide, il a travaillé sur l'Égypte, il a reconstitué toutes les dynasties égyptiennes. Il y a un gros problème. Les égyptologues actuellement, et là nos braves traditionalistes, on les entend pas du tout, les égyptologues nient la présence des Hébreux en Égypte. C'est-à-dire des pans entiers de l'écriture, écriture que notre Seigneur demandait de croire, des pans entiers de l'écriture sont niés, des pans entiers de la Genèse. Les Hébreux n'auraient pas été en Égypte, Moïse n'a pas existé, Joseph n'a pas existé. Et bien Fernand Crombette, par une nouvelle lecture des hiéroglyphes égyptiens, et je suis moi actuellement personnellement des cours d'égyptiens à la faculté depuis un an et demi, et je suis intimement convaincu que Fernand Crombette a une méthode de lecture des hiéroglyphes infiniment plus pertinente que celle de Champollion.
Et son travail sur l'Égypte, il va le faire sur la Crète, il va le faire sur les Hittites, il va le faire sur tout un tas de civilisations antiques et montrer que la Bible ne se trompe pas. Il y a, je trouve que cela, c'est quand même une vision très traditionnelle, ou très, même très traditionnaliste, finalement. La vraie tradition, pas celle qui date du 19e siècle, la tradition des pères de l'Église.
Alors, une des activités du Séché, c'est de republier, enfin de publier, parce que la plupart n'ont pas été publiés, de publier les travaux de Crombet, de les faire connaître. Mais je voudrais reposer une question que j'ai déjà posée à M. Dilly, et à vous aussi, M. Crémieux, c'est comment devient-on aussi impliqué dans un travail qui ne peut vous attirer que des sarcasmes, presque des ennuis en quelque sorte, pas de gros ennuis, mais enfin qui ne vous attirera pas forcément la considération de votre concierge. C'est ça.
Oui, ben on vous chassera des synagogues, on vous persécutera, on dira faussement de choses contre vous à cause de moi. Bon, mais ça c'est on savait qu'on signait ce papier, on savait que.
Mais qu'est-ce qui a provoqué le déclic? Qu'est-ce qui vous a l'événement qui a fait que d'un seul coup vous êtes intéressé à combattre?
Parce que quand vous lisez Crombet dans le texte, vous ne pouvez être qu'époustouflé. Nous ne faisons que résumer maladroitement son travail, mais quand vous le lisez dans le texte, c'est époustouflant. Ça sent la sainteté et la vérité. Et toute personne qui le lit a ce sentiment. Ce qui m'a vraiment été moteur, bon, vraiment, étant scientifique de formation, j'ai toujours eu de gros doutes sur la certitude des choses qu'on m'enseignait. Et le déclic, ça a été Jérusalem, centre du monde. Une reconstitution que tout le monde peut faire. C'est à la portée de n'importe qui veut travailler, de reprendre la côte bathymétrique moins de 2000 mètres et de recoller le tout. Et cette reconstitution Jérusalem centre du monde, c'est tellement merveilleux, c'est tellement extraordinaire que ça arrive à point nommé dans une époque vaincue par le laïcisme, d'avoir une œuvre qui réconcilie la science et la foi. C'est une œuvre vraiment catholique. Et nous sommes catholiques romains, je voulais le préciser, mais ça s'entend bien entendu.
Monsieur Didier, dans votre cas, qu'est-ce qui s'est passé?
Écoutez, c'était très simplement une question quand j'étais en terminale qu'un professeur m'avait posée. Il m'avait tout simplement dit, est-ce que la Terre tourne autour du Soleil? Et évidemment, je lui ai répondu, c'est bien évident, on nous l'enseigne du matin au soir. Et il m'a tout simplement dit, vous en êtes si sûr? Et à partir de cette question, j'ai remonté la filière historique pour essayer de comprendre pourquoi et comment en étant arrivé à la forme d'héliocentrisme. Tout ça a été un combat de longue date, épique, qui a duré plusieurs siècles. Et en fin de compte,
recherche personnelle. Hein.
Oui, en particulier grâce à comment s'appelle-t-il cet anglais là. Enfin, peu importe, le nom me reviendra. À la fin de cet itinéraire, je suis tombé sur Poincaré, et à travers son équation, il nous démontre très simplement qu'on ne peut pas, avec trois éléments en mouvement, savoir quel est celui...
C'est celui qui bouge.
Voilà. Donc, et actuellement, et en particulier avec la théorie relativiste, on ne sait absolument pas qui bouge par rapport à l'autre. C'est absolument impossible.
Je voudrais souligner, juste après je te redonne la parole, parmi les gens qui nous critiquent, il y a des gens qui disent que l'héliocentrisme est archi-prouvé, c'est-à-dire que la Terre tourne autour du Soleil, et en même temps ils défendent la théorie de la relativité qui nie la possibilité de déterminer un mouvement absolu. Donc on voit la vacuité des propos qui nous sont adressés la plupart du temps.
Et quant à l'auteur que je voulais citer, c'était Monsieur Kessler, dont Les Somnambules, qu'on trouve peut-être encore actuellement en livre de poche, est un livre absolument remarquable, où là, il démontre par l'arrière-cour de la science, quelle est la cuisine scientifique. Et on s'aperçoit que derrière tous les grands savants qui sont portés au pinacle de notre société moderne, se trouvent des alchimistes, des magiciens, ou des gens qui passaient leur temps à faire des calculs obscurs. Mais en tout cas, pas de science.
Voilà, bah écoutez, vous voyez, il est l'heure de nous séparer. Ça fait quand même 40 minutes qu'on parle, et ça va vite.
J'ai l'impression que ça faisait 5 minutes.
Bah oui, voilà. Alors il reste beaucoup de choses à apprendre de vous.
Mais, alors on va vous donner peut-être les coordonnées.
Oui, ce que je voudrais dire, c'est que pour en savoir plus et pour vous rencontrer,
oui,
et pour rencontrer d'autres personnes qui participent à l'aventure du Séché, on peut se rendre le 6 décembre prochain à la journée régionale Île-de-France qui est organisée à la maison Ephrem au Sacré-Cœur de Montmartre.
Juste derrière le Sacré-Cœur.
Juste derrière le Sacré-Cœur, c'est ça. Donc à 9h, inscription, accueil, inscription. À 10h, présentation de la journée par Alain Fournier, président du Séché. De 10h à 10h15, pardon, l'actualité, perspectives géopolitiques, économiques et financières d'un monde en crise majeure. À 11h, une conférence que j'espère pouvoir aller écouter parce que c'est vraiment passionnant, de Madame Marika Devoucou. Une nouvelle lecture des idéogrammes chinois par la méthode de Fernand Crombette est-elle possible? Parce que là, c'est incroyable.
Mais... Oui, une petite anecdote. Vous savez que le terme de déluge en chinois, alors, donc vous voyez un petit peu comment sont faits les idéogrammes chinois, et lorsque vous le découpez en morceaux, ça donne bateau, 8 personnes.
C'est ça.
Donc, c'est uniquement en petite amuse-bouche.
Oui. À 12h30, déjeuner. À 13h45, Monsieur Gonzalo Deschamps parlera de la formation de l'image du linceul de Turin, une nouvelle grille de lecture avec montage audiovisuel, et ensuite récréation, si j'ose dire, jusqu'à 16h, heure à laquelle Monsieur Yves Nourissa, conseiller scientifique du Séché, fera une conférence sur les pharaons du Moyen-Empire, 17h15 questions, 18h fin. Et ça se passe, je le rappelle, le 6 décembre.
Séché, ça veut dire C, Centre d'études scientifiques.
Et historiques. Alors, je vais vous donner peut-être l'adresse e-mail, courriel. C'est séché, C-E-S-H-E, @chez.com, C-H-E-Z.com. Je répète, séché, C-E-S-H-E, @chez.com, chez.com. Il y a un numéro de téléphone, le 06 15 87 72 01. Je répète, 06 15 87 72 01.
Merci beaucoup, messieurs.
Et le livre auquel vous avez fait allusion tout à l'heure est bien de Pierre Pluchon, et on peut le trouver à la bibliothèque Jeanne d'Arc, qui en possède un exemplaire, 01 47 07 15 66.
Voilà. Merci. À la semaine prochaine, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Beketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 3 décembre de 18 à 21h, en différé jeudi 4 dans la...